Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, c'est parti pour Apolline Matin. Il est 6h58 et vous êtes bien sur RMC. Nous sommes le mercredi 4 février. C'est elle-même qui le dit. Si les réquisitions du parquet sont suivies, je ne pourrai pas être candidate. Marine Le Pen risque 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, et 5 ans d'inéligibilité dans le procès en appel des assistants parlementaires européens du Front National. Coup de tonnerre sur la présidentielle. Il faudra attendre cet été pour connaître précisément sa peine, mais les réquisitions font réagir évidemment, non seulement vous, au 32-16, vous êtes évidemment les bienvenus pour vos réactions. Et puis dans 10 minutes, le porte-parole du Rassemblement National, Philippe Ballard, sera en direct avec nous sur RMC. Marine Le Pen empêchée, est-ce que ça vous choque ou est-ce qu'au contraire vous estimez que c'est tout simplement une justiciable comme les autres? Faut-il que Jordan Bardella soit le candidat du RN pour 2027? Vos réactions au 32-16 ou sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Jean-Luc Mélenchon avait regretté la condamnation en première instance de Marine Le Pen. Il estimait que c'était au peuple de décider. Comment le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, voit-il les réquisitions contre Marine Le Pen? Réponse à 8h30 dans le face-à-face. Mon invité donc, Manuel Bompard. À 7h40, on fera le bilan de la lutte contre le narcotrafic à Marseille. Ne le manquez pas, le procureur de la République de Marseille, un homme extrêmement estimable et très très intéressant, a choisi RMC pour s'exprimer ce matin. Ce sera à 7h40 et ça promet d'être passionnant. Bref, voici la matinale, dans un instant le journal de 7h, mais tout de suite la météo. Géraldine, il pleut.
Encore, oui, une nouvelle perturbation qui va arriver, alors qu'on est encore en vigilance orange pour les crues en Gironde, pour les crues de la confluence Garonne et Dordogne. Et cette nouvelle pluie donc, qui va arriver par l'Atlantique, on a aussi des remontées de Méditerranée. Au final, il va pleuvoir, et parfois fort, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, mais sur les autres régions, entre l'Auvergne, les Alpes, en allant jusqu'au nord de la France, ce sera beaucoup plus calme, plus sec, avec simplement un soleil voilé. Les températures évoluent assez peu. La douceur, toujours, cet après-midi, on aura entre 10 et 15 degrés en général sur le pays.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Excellent réveil, merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'avenir politique de Marine Le Pen s'assombrit. Une peine à 5 ans d'inéligibilité sans exécution immédiate a été requise hier au procès en appel des assistants parlementaires du FN. Une professeure d'art plastique dans un état grave mais stable ce matin à Sanary-sur-Mer, poignardée par l'un de ses élèves, décrit comme perturbateur. Le suspect de 14 ans, inconnu des services de police, est toujours en garde à vue ce matin. Et l'OM, qui se donne un peu d'air, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France hier soir, tombeur de Rennes 3-0.
L'espoir d'une candidature à la présidentielle s'éloigne pour Marine Le Pen.
À son procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, le parquet général lui reproche d'avoir été l'instigatrice d'un schéma de détournement de fonds mis en place par son père. Il requiert 4 ans de prison, dont un ferme, mais aussi 5 ans d'inéligibilité. L'exécution immédiate n'a en revanche pas été réclamée. Pour autant, si la peine venait à être confirmée cet été par la cour d'appel, Marine Le Pen reconnaît elle-même même qu'il lui serait compliqué de se présenter en 2027. Guillaume Bier, chef du service police-justice, nous en explique les raisons.
Eh bien, parce que si la Cour lui inflige 5 ans d'inéligibilité, Marine Le Pen aura alors deux solutions, soit accepter sa condamnation et donc renoncer à se présenter au scrutin, soit contester, c'est-à-dire former un pourvoi en cassation, ce qui suspendrait cette peine complémentaire. À ce moment-là, en théorie, elle pourrait candidater et faire campagne, mais le problème, ce serait alors le calendrier, car la Cour de cassation s'est déjà organisée justement au cas où elle devrait trancher cette affaire avant l'élection présidentielle. S'ils étaient saisis, les hauts magistrats rendraient leur décision en janvier 2027, soit 3 mois avant le premier tour, beaucoup trop tard pour changer de candidat si Marine Le Pen se trouvait alors définitivement condamnée. Voilà pourquoi elle affirme déjà qu'une peine d'inéligibilité supérieure à 2 ans, l'empêcherait de se présenter à la présidentielle.
Et la défense de Marine Le Pen a désormais une semaine pour préparer et peaufiner sa plaidoirie afin de convaincre la Cour de ne pas condamner Marine Le Pen. Une enquête pour tentative d'assassinat ouverte à Sanary-sur-Mer, là où une professeure d'art plastique de 60 ans a été poignardée hier dans son établissement, touchée à l'abdomen et à l'avant-bras. Son état est stable ce matin, mais son pronostic vital reste engagé. Des coups de couteau portés par un jeune collégien de 14 ans, placé en garde à vue. Pierre Bazin, service police-justice RMC. Vous êtes sur place ce matin et en direct pour RMC. Les enquêteurs se penchent sur le profil de ce jeune suspect, sur son passage à l'acte. La thèse privilégiée ce matin, Pierre, c'est celle du ressentiment.
Oui, c'est un potentiel mobile sur lequel les policiers travaillent, puisque depuis hier, cet adolescent de 14 ans est décrit par les professeurs et des camarades comme un élève perturbateur, agaçant, qui avait fait l'objet de sanctions disciplinaires. Le procureur de Toulon a ajouté, tout en restant prudent à ce stade, que la professeure, victime des coups de couteau, avait rédigé plusieurs rapports pour signaler le comportement du jeune homme, des signalements qui exposaient le suspect à une exclusion temporaire. Ce geste était-il donc prémédité ? C'est ce que cette enquête ouverte pour assassinat devra éclairer, mais plusieurs collégiens ont pu expliquer dans la foulée des faits que le jeune homme avait menacé de s'en prendre particulièrement à cette enseignante de 60 ans, des éléments en cours de vérification par les policiers.
Et pour autant, Pierre, avant les faits, rien ne laissait penser qu'il s'agissait d'un jeune homme violent.
Oui, aucun élément n'allait dans ce sens. C'est en tout cas ce qu'ont conclu les expertises menées à la demande d'un juge pour enfants suite à une mesure d'assistance éducative, mesure qui devait permettre de protéger le suspect et sa sœur après des soupçons de violence intrafamiliale dont ils auraient pu être victimes. En septembre 2025, cet adolescent était donc décrit comme peu loquace, mais ne présentant jusque-là aucun élément de dangerosité.
Pierre Bazin, en direct de Sanary-sur-Mer ce matin pour RMC. Notez que les cours sont suspendus ce matin dans le collège. Un véritable déluge maintenant du côté d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes, sous les eaux. Hier soir, les rues du centre se sont transformées en torrents, recouverts parfois même de grêlons. Il est tombé dans le secteur l'équivalent de 3 semaines de pluie en quelques jours seulement. Phénomène d'une rare violence qui a surpris Christophe, habitant de Golfe-Juan.
On a eu un orage stagnant qui s'est rapidement transformé en grêle aux alentours de 20h et la grêle a duré plus d'une heure. Je dirais une heure vingt non-stop. Là, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le sud et c'est la première fois que je vois un orage de cette ampleur, du moins stagnant aussi longtemps. Ça a été compliqué. Pas de dégâts apparents. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu sur Antibes notamment des garages inondés, des routes inondées avec pas loin peut-être de 50 cm d'eau. Là, on va éponger. J'espère qu'il fera beau et que ça va pouvoir sécher un peu et qu'on va pouvoir regarder un peu s'il y a des dégâts autour de la maison.
Et ce matin, c'est la Gironde qui est concernée par une vigilance orange au cru. Les jours se suivent et se ressemblent pour les fabricants de lait infantile. Nestlé France annonce le rappel d'un lot de la marque Gigoz. Premier âge, conséquence d'une évolution des méthodologies d'analyse de céréulines, toxines dans les seuils ont été revues à la baisse. Hier, le gouvernement s'est ému des informations d'RMC sur les prix des transports en commun pour les usagers. Ce matin, nous maintenons qu'il y a bien eu une étude d'impact sur le bureau du ministre des Transports, étude qui fixe l'objectif à terme de doubler les tarifs payés par les usagers. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, l'a rappelé. Hier, il faut s'interroger sur le financement des infrastructures de transport. Gouvernement et collectivités locales doivent donc, Victor Joannin, trouver des solutions.
Il faut que les usagers payent leur juste part, plaide-t-on dans l'entourage du ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui rappelle que la contribution des voyageurs dans le financement des métros, des trains ou encore des bus a chuté depuis les années 70. Aujourd'hui, ils participent à seulement 25% du coût d'exploitation et même 17% si on ajoute les investissements. Le reste étant couvert par les contribuables et les entreprises. Et c'est justement pour préserver la compétitivité des entreprises que l'étude d'impact du ministère préconise de quasiment doubler à terme la contribution des voyageurs, c'est-à-dire de la faire passer de 17 à 30%. Face à la polémique, le gouvernement assure ne pas reprendre cet objectif. En ce moment, n'importe quelle petite bille est transformée en bazooka par les oppositions, donc c'est normal qu'il y ait une opération déminage, glisse un conseiller dans un autre ministère.
7h07, le soulagement à Marseille ce matin.
Oh oui, l'OM s'évite une crise, vainqueur de Rennes 3-0 hier soir en Coupe de France. Les Marseillais, sous pression, ont retrouvé des couleurs et se qualifient pour les quarts de finale, Florent Germain.
Oui, après la honte et le dégoût, Coupe de France obligatoire. L'une des immenses banderoles du Vélodrome avait donné le ton hier soir. Les joueurs devaient se faire pardonner et l'OM a vite compris le message. Un but express, une victoire logique 3-0 et un coach, Roberto De Zerbi, forcément soulagé.
Non, solievo è quando uno.
Encore une fois, ils ont été à nos côtés, aux côtés de l'équipe, en dehors de ces banderoles qui sont légitimes. Je comprends parce que c'était la vérité qui était retranscrite sur ces banderoles. Moi, je dis toujours que les supporters sont plus intelligents et comprennent mieux le football que ce que pensent les gens.
Spesso dicono la verità.
L'un des buteurs de la soirée, Pierre-Emerick Aubameyang, a retrouvé le sourire. L'OM s'est un peu réconcilié avec ses supporters et rêve désormais d'un trophée en Coupe de France.
J'espère qu'on va aller, jusqu'au bout. On est en quart de finale, ça commence à avancer. Ça va passer par la régularité. En enchaînant les bonnes performances, forcément, ça va donner de la confiance.
En attendant le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, demain, Marseille va pouvoir penser à son prochain match de Ligue 1. Ce sera dimanche au Parc des Princes face au PSG.
Et en attendant ce choc à suivre ce soir sur RMC, le déplacement de Lens à 3, Lyon reçoit Laval, Nice, Montpellier. Le Paris FC, justement tombeur du PSG au tour précédent, se rend à Lorient. Rendez-vous 20h30 sur RMC. Notez également la qualification de Reims face au Mans hier soir.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08. Vous êtes nombreux à réagir au 32-16 à ce drame. À nouveau, hier, un élève qui a poignardé sa professeure en pleine classe à Sanary-sur-Mer. Sa professeure qui est, au moment où l'on se parle, dans un état stable, mais très grièvement blessée. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Michel, vous êtes vous-même retraité, aide-soignant en psychiatrie. Vous connaissez donc très bien ce domaine-là.
Carrément. Carrément.
Et on voit bien qu'évidemment, là, il y a eu des signaux. Hein. Je précise les choses pour que tout le monde comprenne bien. L'élève avait présenté des signaux. Il avait déjà mentionné à plusieurs reprises son envie de s'en prendre à cette professeure. Michel, la psychiatrie, on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment le parent pauvre du monde hospitalier. Hein.
Mais pas que depuis aujourd'hui. Hein. Moi, il y a 30 ans, j'entendais, oh là là, le budget a baissé. Moi, je travaillais à Sainte-Marie, il y en a 5 en France, un de Sainte-Marie, donc c'est des gros hôpitaux psy.
Ouais.
On avait un service spécifique pour les ados et tout, mais les ados, ils venaient chez nous, et puis en fait, ils restaient une semaine, voire un peu plus, et après, ils ressortaient. Alors, aussi, manque de psychiatres, à l'extérieur des hôpitaux, même dans les hôpitaux, pas assez de psy et psychologues, d'accord. Donc, et en parallèle, il y avait un petit peu des soucis par rapport au traitement neuroleptique. Donc, les psychiatres ouvraient le parapluie, donc moins traités.
Donc, n'osaient pas davantage, se retenaient de traiter. Allô ?
Primer le diplôme d'infirmier psy. Voilà. Moi, mon fils, il est prof d'histoire. Un de mes fils est prof d'histoire. Donc, l'autre fois, il y a les AESH.
Les AESH, c'est-à-dire les accompagnateurs d'enfants qui présentent des handicaps.
Voilà, l'autre fois, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un gamin de 12 ans qui a fait mal à un autre gamin. Il a dit, je vais le tuer, je veux voir sa tête saigner. Et l'établissement, entre guillemets, ne fait rien. Donc là, il y a un bas qui blesse, là.
Ça veut dire que cet enfant-là, par exemple, qui présente une menace pour ses camarades, il est toujours aujourd'hui scolarisé dans l'école, au contact de ses camarades.
Complètement. Donc c'est un truc de fou. Et il n'y a pas assez de psychologues ou d'infirmiers dans les établissements qui restent en permanence. Alors il y a certains des gens qui disent, ouais, infirmiers ou psychologues dans les établissements, les gens, ils foutent rien, ils sont payés.
Non. Au contraire. Et effectivement, comme c'est afflux, parce qu'il n'y en a pas assez, ils bossent, ceux qui y sont bossent énormément. Merci beaucoup, Michel. C'est la première fois que je vous accueille, Michel.
Mais non, il y a plein de fois que j'ai appelé.
Ah bon?
Oui.
Mais ça fait un petit bout de temps que vous n'aviez pas appelé pour me raconter des histoires de psychiatrie, en tout cas.
Exactement. Bon, j'ai voulu intervenir, et puis, le temps était passé, il n'y avait pas possibilité, quoi. C'était par rapport, justement.
Merci en tout cas de votre témoignage, de votre vécu, à la fois le vôtre et aussi celui de votre fils. Merci Michel, très belle journée à vous dans les Alpes-Maritimes. Il est 7h12 sur RMC. Marine Le Pen pourra-t-elle être une quatrième fois candidate à l'élection présidentielle? La chef de file du RN risque 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, et surtout 5 ans d'inéligibilité dans le procès en appel des assistants parlementaires européens du FN. Philippe Ballard est avec nous en direct dans un instant, député RN, porte-parole du parti. Rien n'est joué complètement pour Marine Le Pen. C'est ce que vous espérez sans doute et ce que vous défendrez dans un instant, même si évidemment les juristes sont plutôt pessimistes sur son sort. On le verra dans un instant. Et vos réactions à vous au 32-16 sur l'incapacité peut-être de Marine Le Pen à être candidate. Il est 7h12.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h16 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story à la télé. Écoutez bien, Marine Le Pen a été l'instigatrice d'un système qui a permis pour le compte du parti de détourner 1,4 million d'euros. Voilà ce que disent les réquisitions contre la triple candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen. Les avocats généraux réclament contre la triple candidate, donc 4 ans de prison, dont 3 avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Bonjour Philippe Ballard. Vous êtes député, vous êtes porte-parole du Rassemblement National. Est-ce que vous estimez que tout n'est pas perdu pour Marine Le Pen ?
Ah bah écoutez, on est dans un état de droit, donc la parole va être à la défense à partir d'aujourd'hui et la semaine prochaine pour les avocats de Marine Le Pen. Ce qu'on peut remarquer, c'est factuel, hein. Marine Le Pen l'a dit, le réquisitoire est quasiment aussi dur qu'en première instance, même s'il n'y a pas l'exécution provisoire. Et puis après les plaidoiries, eh bien on attendra le jugement qui devrait survenir entre le mois de juin et le mois de juillet, et à ce moment-là, Marine Le Pen prendra sa décision.
Avant l'été, effectivement, mais ça veut dire aussi que c'est beaucoup de... il ne restera plus beaucoup de temps derrière. Elle dit d'ailleurs, Marine Le Pen, si les réquisitions du parquet sont suivies, je ne pourrai pas être candidate. Cette inquiétude qui va flotter au minimum jusqu'à l'été prochain, est-ce que ça n'est pas quand même un handicap pour votre parti ? Est-ce qu'il ne faut pas acter dès maintenant, au fond, qu'il faut trouver un autre candidat ?
Ben non, parce que vous venez de le rappeler, le jugement l'aura au mois de juillet. Donc voilà, ce sont des magistrats qui ont le sort de la présidentielle entre leurs mains. Alors pourquoi trop tard ? Parce que il y a toujours la possibilité d'aller en cassation, mais l'arrêt, comme l'on dit, interviendrait au mois de janvier. L'élection présidentielle a lieu au printemps prochain. Bien comprendre ce que c'est qu'une élection présidentielle. Moi, j'ai vécu celle de 2022 de l'intérieur. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. C'est une énorme machine qu'il faut mettre en marche. Alors, il y a toujours les fameuses 500 signatures, mais il y a l'aspect financier. C'est pas une cagnotte litchi, hein, puis c'est ad hominem. Et puis, il y a les commandes, toute la logistique, les commandes de papier, les affiches, les tracts à commander. Enfin, il faut s'y prendre bien plus tôt. Donc, voilà, Marine Le Pen prendra sa décision donc après ce jugement au mois de juin ou juillet.
Après le jugement de juin ou de juillet, vous vous souvenez effectivement que lors de la première condamnation, en première instance, Jordan Bardella avait parlé d'une tyrannie des juges. Marine Le Pen avait même parlé d'un viol de l'état de droit et d'une tentative d'assassinat politique. Ça, c'était le député RN du Gard. Aujourd'hui, vous n'estimez pas qu'il s'agit d'un jugement politique ?
Écoutez, on va attendre le jugement définitif. On était dans les réquisitions, donc voilà, c'est la première étape. Il y a les plaidoiries et puis le jugement. Oui, je sais qu'on a beaucoup parlé de ces phrases. Si vous voulez, enfin, il y a des magistrats qui font remarquablement bien leur travail. Il y en a qui sont placés sous protection judiciaire, notamment ceux qui luttent contre les narcotrafiquants. On leur doit vraiment chapeau, enfin tout le respect. Et puis oui, quand on trompe sur le communiqué du syndicat des magistrats qui en juillet 2022 lors des législatives a à faire barrage au Rassemblement National, là, on peut avoir une autre attitude. Il faut quand même nous comprendre. Bon, voilà. Maintenant, on attend les plaidoiries et puis on attend le jugement.
Sereinement, et diriez-vous ?
Marine Le Pen prendra sa décision.
Sereinement, diriez-vous ?
Alors, sereinement, c'est peut-être un mot un petit peu exagéré. Non, mais remarquez quand même la hauteur de vue de Marine Le Pen. Ce qui compte pour elle, c'est pas son petit cas personnel, c'est la France et les Français. Voilà, donc elle prendra sa décision en toute conscience après le jugement dans l'intérêt de la France et des Français.
Donc juste avant l'été, merci beaucoup d'avoir réagi ce matin. Philippe Ballard, vous êtes donc député et porte-parole du Rassemblement National. Il est 7h19, l'historien d'Apolline Matin vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Apolline.
Arthur, le prince héritier de Norvège face à la justice. Il est accusé de viol et de violence et ça n'est pas le premier héritier sulfureux.
Et oui, c'est presque une tradition dans les familles royales. Hein. Le successeur de Louis XIV et le fils de Napoléon étaient déjà connus pour leurs frasques scandaleuses.
Vous allez nous le raconter dans un instant. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 45 secondes sur RMC, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de remonter le temps, comme chaque matin, avec Arthur Chevalier. Rebonjour Arthur.
Rebonjour.
Un procès retentissant a débuté hier à Oslo. Le fils de la princesse héritière de la couronne de Norvège est accusé de viol, de violence conjugale, de fait de soumission chimique. Il encourt 16 années de prison.
Oui, c'est le fils de la princesse Mette Marie qui est déjà mise en cause ces jours-ci pour sa proximité avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Un parfum de scandale flotte sur la famille royale de Norvège.
Les accusations contre son fils sont gravissimes.
Oui, et pourtant, quand il était jeune, ce blondinet était la coqueluche de toute la Norvège. Hein. Seulement voilà, il a grandi, il s'est mis à faire parler de lui. en mal. Il commence par arrêter ses études pour devenir styliste, puis mécanicien moto. Pas banal pour un petit prince. Bon, à la limite, ça reste sympathique, mais ça va dégénérer. Il fait beaucoup la fête, prend de la cocaïne, toute la presse en parle. Et en 2024, il est arrêté après avoir essayé d'étrangler une jeune femme. C'est le début de la descente aux enfers.
À travers l'histoire, il y a eu beaucoup d'héritiers sulfureux.
Eh oui, hein, dans les familles royales, il y a toujours des sales gosses. Et tout ça ne date pas d'hier. Au début du XVIIIe siècle, juste après Louis XIV, la France est gouvernée par un régent, membre de la famille royale. Ce régent s'appelait Philippe d'Orléans. Et il menait une vie de débauché complet. Il enchaînait les aventures amoureuses dans son château à Paris. Il organisait des banquets gigantesques où tout le monde se goinfrait. Ça se terminait à pas d'heure, en partie fine et à plusieurs. La France ne parlait que de ça. Une très mauvaise pub pour la monarchie.
Le propre fils de Napoléon n'était pas non plus exemplaire. Hein.
Effectivement, mais c'était un autre genre. Hein. Le fils de Napoléon, qu'on surnommait le roi de Rome, va lui aussi filer un mauvais coton. Après la mort de son père, il grandit à Vienne, en Autriche, hein, avec sa mère qui était autrichienne. Et ce garçon va se faire remarquer par ses mauvaises manières. Il passait son temps à boire, il venait complètement ivre à des réceptions officielles et il n'était pas rare en fin de soirée de le choper en train de vomir derrière les rideaux. Bref, Napoléon devait se retourner dans sa tombe.
Et bien sûr, on ne compte plus les frasques du prince Andrew.
Oui, le prince Andrew, c'était le chouchou hein, de la reine Elisabeth II, son fils préféré. Et pourtant, Andrew avait tous les vices. Hein. Il dépensait des fortunes, hein. Il s'est même fait prendre à louer des jets privés juste pour une journée pour aller faire du golf avec ses copains en Écosse. Il avait des fréquentations scandaleuses. Hein. Il était proche du dictateur libyen Kadhafi, du dictateur tunisien Ben Ali. Et bien sûr, il y a son amitié avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Plusieurs femmes l'accusent par ailleurs de viol. Bref, quand son frère Charles III devient roi, il siffle la fin de la récré. Il lui retourne toutes ses fonctions, tous ses titres royaux. Andrew n'est donc plus prince. Il a même dû rendre sa maison. Une disgrâce complète et méritée, Apolline.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. On accueille Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud. Dans le face-à-face tout à l'heure.
Ah oui, on va rigoler.
Je reçois Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise.
Ouais, coordinateur de la France Insoumise. Donc on l'a appelé hier soir. Allô, allô, monsieur le coordinateur. Vous appelle de la part d'Apolline qui voudrait aborder tous les dossiers Epstein.
Dites-moi.
On n'a jamais pensé à cette chanson, c'est dommage, ça nous tendait les bras.
Elle était là.
Manuel Bompard qui n'est pas dans les dossiers Epstein, contrairement à une autre figure de gauche, Jack Lang. Bon, on s'attendait pas à trouver Manuel Bompard chez Epstein, c'est pas le genre à aller faire la fête sur une île aux Caraïbes avec un juif. Non, Mélenchon, il a déjà fait la fête avec des mineurs, mais c'était des mineurs de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais, pour parler d'exploitation patronale, c'est pas la même ambiance. Non, en vrai, on reviendra sur le budget, car les motions de censure de LFI ont toutes été rejetées. Tout ça parce qu'Olivier Faure et les socialistes n'ont pas soutenu les insoumis dans cette opération. Ben oui, mais bon, le PS, ils avaient obtenu des concessions vers la gauche, donc ça leur disait rien de renverser le gouvernement. Chez les insoumis, on n'est pas contents. Salaud ! Enfoiré ! À cause de ces cons de traite de socialistes, on a un budget maintenant, alors qu'on aurait pu avoir un beau bordel. Et on a pépère le cornu pour un an. Les socialistes salopards. Sous Hollande, ils nuisaient à la gauche en étant de droite, et sous la droite, ils nuisent à la gauche en étant de gauche. C'est peut-être pas hilarant, mais c'est bien vu. Au Nouvel Économiste,
ils ont fait. Tout à fait. Non, parce qu'il y a certains moments où effectivement,
mais oui, il y a des moments, c'est l'analyse.
Il faut que vous soyez sérieux.
C'est l'analyse qui compte. Et alors, j'en parle pas d'habitude, mais vous avez un autre invité, Maous, aujourd'hui, dans Apolline de 9 à 10 sur BFM TV. Tout à l'heure, c'est Jack Lang que vous recevez.
J'avoue.
Le président de l'Institut du Monde Arabe, qui viendra vous parler, bien sûr, de l'expo Photographier le patrimoine du Liban, 1874-1970. Enfin, c'est ce qu'il croit. C'est un piège. Nous sommes machiavéliques. Non, en vrai, c'est parce que son nom revient à de nombreuses reprises dans le dossier Epstein, faudra l'interroger. Mais Madame de Malherbe, comment aurais-je pu savoir que Monsieur Epstein avait déjà été condamné? Ben, en allant sur Internet. Oui, non mais à Lolita Island, le réseau Wi-Fi n'est pas terrible. Et puis quand on est nu, où mettre un portable? Non, monsieur Béliard, ne répondez pas, je vous venir. Ou alors en vibreur, même. Alors, moi, je suis un mec tolérant, ami d'Epstein, pourquoi pas, mais avoir créé la fête de la musique, ça, on ne lui pardonnera jamais. J'adore lui en causer. On parlera peut-être aussi du vol des bijoux du Louvre, pas en tant qu'ancien ministre de la Culture, mais parce qu'il loge au Louvre, Jack Lang, dans un sarcophage du département des Antiquités égyptiennes, depuis qu'il s'est fait embaumer en 97. Alors, rendez-vous avec Manuel Bompard à 8h30, Jack Lang vers 9h et moi à 8h15. On fait des rendez-vous avec des beaux gosses.
On fait des rendez-vous aujourd'hui. Il n'est que 7h27, ma journée va être très très longue. Merci. Arnaud Demange qu'on retrouve donc évidemment tout à l'heure en direct à 8h20. Il est 7h27, vous êtes bien sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal. À tout de suite. Il est 7h29 sur RMC et il pleut, Géraldine.
Et oui, une nouvelle perturbation qui arrive encore une fois par l'Atlantique, alors qu'on est toujours en vigilance orange pour les crues sur la Gironde. Donc de nouvelles pluies près de l'Atlantique avec pas mal de vent. De l'autre côté, on a aussi des remontées de Méditerranée. Donc de la Bretagne jusqu'à la Méditerranée, on va avoir des pluies qui seront quand même encore parfois assez soutenues. Mais sur les autres régions, entre l'Auvergne, les Alpes et en montant jusqu'au Grand Est et au Nord, ce sera un temps sec, calme, avec même parfois de belles éclaircies. Les températures évoluent assez peu. On reste vraiment dans la douceur. Pour cet après-midi, il fera 10 à Brest, 11 à Lille et Bordeaux, 12 à Paris, à Lyon, 14 degrés pour Marseille et jusqu'à 15 pour Perpignan et Ajaccio.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Danjean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le choc immense à Sanary-sur-Mer dans le Var au lendemain de l'agression au couteau d'un collégien sur sa professeure d'art plastique. L'enseignante est dans un état grave mais stable ce matin. Marine Le Pen 2027, un scénario de moins en moins probable à mesure que la chef des députés RN avance dans son procès en appel où 5 ans d'inéligibilité ont à nouveau été requis contre elle. Et puis une pratique en hausse, la chimiothérapie à domicile, plus 20% en moins, au moins l'an dernier. Et pour cause, elle est bien meilleure pour le patient, pour le soignant et même pour les caisses de l'État.
Les cours ne reprendront pas ce matin au collège La Guicharde de Sanary-sur-Mer.
Là où hier, un collégien de 14 ans poignardait sa prof d'art plastique en plein cours, sous les yeux incrédules de ses camarades de classe. L'enseignante de 60 ans a été gravement blessée, opérée en urgence et désormais dans un état stable. Un acte, selon les premiers éléments de l'enquête, qui n'avait ni connotation religieuse, ni connotation politique, mais qui a consterné tout l'établissement devant lequel vous vous êtes rendu pour RMC, Anna Jojard.
Devant leur collège, certains élèves avaient du mal à rentrer chez eux. Ils avaient besoin d'échanger sur ce qu'ils ont vu et entendu.
J'entendais des « à l'aide, au secours, s'il vous plaît, sauvez-moi » et tout.
La prof était en sang complètement et il y avait beaucoup de sang tout autour de sa salle. Et l'élève, il a couru, il est parti se réfugier aux toilettes.
Il était en pleurs et il s'est tapé la tête contre le mur des toilettes. Et il disait « ouais, je suis vraiment débile et tout, je sais pas pourquoi je l'ai fait ».
Certains parents se sont spontanément rendus devant l'établissement après le drame.
On est un peu abasourdis de la chose, quoi. Comprends pas.
Et on est tous choqués en fait. Je pense qu'il va y avoir des séances de psy à gogo parce qu'ils sont perturbés. Hein. Ils ont appelé leur mère en pleurant. On est perturbés quoi.
L'agresseur est décrit comme un élève discret mais perturbateur parfois. Tatiana Colodiez est sa professeure de PS.
C'est pas un élève qui manifestait forcément de la violence, pénible, à agacer un petit peu. Je sais qu'il était quelquefois exclu de cours, mais. De là à agir comme ça.
Et cette professeure décrit aussi le choc et la stupeur dans l'équipe enseignante. Ce matin, les cours sont suspendus et une cellule psychologique a été ouverte.
Il est 7h32 sur RMC et la porte de la présidentielle se referme un peu plus sur Marine Le Pen après les réquisitions prononcées hier au procès en appel des assistants parlementaires du Front National. 4 ans de prison, dont 3 avec sursis et 5 ans d'inéligibilité, mais cette fois sans exécution immédiate. C'est la principale différence avec sa condamnation en première instance. Guillaume Bier, vous êtes le chef du service police-justice d'RMC. C'est vous qui avez assisté à ce réquisitoire. Comment on explique ce choix des avocats généraux ?
En fait, ils estiment que ce n'est pas nécessaire, notamment parce qu'il n'y a pas de risque que Marine Le Pen réitère les faits dans l'immédiat et que si elle contestait cette peine non exécutoire, de toute façon, la Cour de cassation tranchera avant la prochaine élection. Parce que sur le fond, même si la peine de prison requise contre la chef de file du RN est un peu allégée, c'est bien sa condamnation que le parquet général a réclamée, estimant qu'elle était l'instigatrice de ce système de détournement de fonds européens à la suite de son père, qu'elle a joué un rôle central. Le caractère intentionnel de vos actes confirme la gravité des faits, lui a directement reproché l'un des avocats généraux pour qui son attitude lors de ce procès en appel était, je cite, une remise en question de façade. Alors en défense, eh bien, les avocats de Marine Le Pen ont jusqu'à mercredi prochain pour peaufiner leur plaidoirie.
7h33, après le rejet du Sénat la semaine dernière, la loi sur l'aide à mourir revient à l'Assemblée dans sa version initiale qui repart en commission ce matin et jusqu'à vendredi avant un retour dans l'hémicycle le 16 février prochain. Et pour ceux qui se battent actuellement contre le cancer, il y a une pratique qui se développe de plus en plus, la chimiothérapie à domicile. L'an dernier, au moins 20% de nouveaux patients ont pu en bénéficier. Solène Leroux a pu rencontrer l'un d'eux pour RMC.
HAD, pour hospitalisation à domicile, c'est la routine pour Ludovic, tout juste 75 ans.
HAD, c'est ma maison. Les traitements, c'est bien fait et puis c'est... j'ai pas de problème avec.
Plus de 10 ans qu'il reçoit sa chimiothérapie chez lui, livrée dans un carton. De quoi traiter son myélome, un cancer de la moelle osseuse. Aujourd'hui, c'est l'infirmière Mariam qui lui injecte le produit.
Relâchez bien votre cuisse, inspirez, j'y vais.
Une minute plus tard, c'est fait.
Ça va, ça a été ?
Oui, ça va, ça va.
Après, il y a différents types de chimio qu'on doit passer des fois. Il y a des protocoles de 5 minutes.
Parfois plus. À domicile, en tout cas, il y a moins d'attente qu'à l'hôpital où Ludovic se rend toutes les 6 semaines.
Rendez-vous 11h30, je suis sorti là-bas. 5h30, 6h.
Être ici, ça évite les transports, la fatigue. C'est aussi plus confortable pour les soignants.
Il faut qu'au domicile, on a quand même un peu plus de temps. C'est pas les sonnettes ou des patients qui appellent dans une autre chambre. C'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on est consacré aux patients à ce moment-là.
Ça permet aussi de désengorger les hôpitaux et puis de faire des économies. À l'hôpital, une séance de chimiothérapie coûte environ 600 euros. C'est 300 à domicile.
Un risque accru de cancer et de maladies respiratoires. La cigarette électronique est dangereuse, elle aussi, pour la santé. C'est ce que révèle ce matin une vaste étude de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire. On y revient dans le journal de 8h. Il est 7h35 et la guerre est déclarée entre Elon Musk et la justice française. Le patron de X dénonce une attaque politique après la perquisition hier des bureaux parisiens de son réseau social et sa convocation devant les juges en avril prochain. Le milliardaire est dans le viseur du parquet de Paris qui enquête sur les dérives présumées de sa plateforme avec notamment 7 infractions repérées, Victor Girard.
Oui, et plusieurs d'entre elles sont liées à la circulation de contenus illégaux sur la plateforme. Images pédopornographiques, deepfakes à caractère sexuel, contenus négationnistes. Au cœur des investigations, Grok, le robot d'intelligence artificielle développé par X. L'outil avait généré un post niant la finalité criminelle des chambres à gaz durant la Seconde Guerre mondiale. En réaction, la Ligue des droits de l'homme avait déposé plainte pour contestation de crimes contre l'humanité. Le parquet de Paris prévoit de convoquer en qualité de témoin en avril les salariés de la plateforme. Des auditions très attendues par la présidente de la LDH, Nathalie Théot.
Comment ils travaillent? Quelles sont les consignes qui leur sont données? C'est un ensemble d'éléments qui devraient nous permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que l'intelligence artificielle en vient à générer par une volonté humaine certains types de contenus.
Le parquet de Paris espère également pouvoir entendre le patron de X, Elon Musk. Hier, le milliardaire a réfuté catégoriquement toute infraction et dénoncé une procédure abusive qu'il qualifie d'attaque politique.
En football, l'Olympique de Marseille pense ses plaies et se rassure un peu en Coupe de France avec une victoire 3-0 hier face à Rennes à domicile et une qualification pour les quarts de finale.
Et puis le Quintet Élise, c'est 13h... à 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC, vous l'entendez, je suis pressée. Le favori, c'est le numéro 2 aujourd'hui, Almiro. L'outsider, c'est l'As, Prince de Montfort.
C'était le journal d'Élise d'Anjan, il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
La ville de Marseille est-elle en train de gagner la bataille contre le narcotrafic? Le nombre de points de deal est en baisse, le nombre d'homicides liés au trafic aussi, mais les consommateurs, eux, sont toujours là. Bonjour Nicolas Bessonne, vous êtes le procureur de la République de Marseille. Vous avez dévoilé les chiffres hier, les points de deal sont en train de se déplacer, voire même de diminuer, et c'est ce que vous nous dites dans un instant. Je vous attends aussi, vous qui nous écoutez, appelez-nous, vous êtes habitant de Marseille. Est-ce que vous avez les signaux que peut-être le narcotrafic est en train de reculer? Avez-vous été témoin de certaines choses? Vous pouvez nous appeler bien sûr au 3216. Il est 7h38.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et on part tout de suite à Marseille. 17 tués dans des règlements de compte liés au narcotrafic l'an dernier à Marseille. Le chiffre a été révélé hier. C'est toujours trop bien sûr, mais c'est moins qu'en 2024. Bonjour Nicolas Bessonne. Vous êtes le procureur de la République à Marseille. Vous avez dévoilé les chiffres hier donc de la lutte contre le trafic de drogue. Le nombre de points de deal divisé par deux en trois ans à Marseille. La question évidemment du nombre de narcomicides, comme vous dites. Est-ce que vous diriez que peut-être c'est le début d'une reprise de contrôle face au narcotrafic?
On va dire qu'on a stoppé un mouvement qui paraissait endémique avec une mobilisation très forte des services de police, de la justice et puis cette nouvelle loi que nous sommes en train de mettre en œuvre. On a effectivement des chiffres qui sont bons puisque par rapport à 2023 où il y avait 49 narcomicides sur Marseille, on les avait déjà divisés par deux en 2024 et puis encore d'un tiers cette année. Bon, comme vous l'avez dit, 17 personnes de trop. Mais c'est un point positif. Et puis des points de deal en recul, mais des trafiquants qui sont toujours très imaginatifs et une augmentation, à temps constaté, des narco-livraisons pour faire face au pilonnage des points de deal.
Alors, imaginatif comme vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement les points de deal physiques ont diminué, se sont parfois déplacés, voire diffusés sur le territoire hors de Marseille. Et puis peut-être qu'il n'y a plus de points de deal physiques parce qu'effectivement il y a cette livraison à domicile.
Exactement, on a constaté la narco-livraison. Alors, on reprend toujours les codes de l'économie libérale la plus débridée. Soit vous avez une boucle Telegram, soit vous faites de la commande dans le cadre de messageries cryptées, soit des ventes éphémères. C'est quand même très très impressionnant. Alors, nous avons mis le paquet, si je peux m'exprimer ainsi, et on a multiplié les interpellations de narco-livreurs avec souvent des quantités significatives. Mais c'est un phénomène que l'on prend en considération.
Quand vous dites qu'ils se sont déplacés, est-ce que ça veut dire que certains quartiers dans lesquels les habitants vivaient l'enfer sont en train de retrouver visage humain ?
Ah, complètement. Quand vous n'avez plus un point de deal dans une cité, que vous n'avez plus les checkpoints, que vous n'avez plus l'insécurité que cela génère, et que parallèlement, on fait un peu de travail social, de nettoyage, évidemment, la qualité de vie augmente. Et puis moi, je trouve que c'est très important de donner un peu de respiration aux gens des quartiers pour leur permettre de vivre pleinement leur vie. Et d'ailleurs, peut-être un élément aussi, on parle toujours des pouvoirs publics, on met du travail en œuvre, mais après l'assassinat d'Amin Kessassi, on avait déjà ce frémissement-là. Il y a également la population résiste. Et si la population résiste et est à notre soutien, on va y arriver.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une sorte de soulèvement après la mort donc, du frère d'Amin Kessassi, Mehdi Kessassi, qui a donc été assassiné. Lorsque, effectivement, vous dites la population elle-même a décidé à ce moment-là, vous pensez que ça a été un déclic de se dire trop c'est trop, si on commence à assassiner désormais les frères innocents de militants anti-drogue, c'est ça qui a créé une forme de prise de conscience?
Oui. D'abord, désolé sur la confusion.
Non, vous inquiétez pas, mais je vous ai repris.
Complètement, il y a eu vraiment une prise de conscience collective, un véritable sentiment de révolte. Et je le dis depuis le début, l'action des pouvoirs publics, elle doit être forte, mais ça doit également s'accompagner d'un accompagnement de la société civile qui en réalité subit ces comportements. Et effectivement, on a le reflux. Et puis je suis toujours sur cette idée de cercle vertueux. Nous avons des résultats parce que là aussi, les personnes attendent que nous ayons des résultats positifs. Ça peut les aider dans cette prise de conscience.
Il y a Julien qui nous appelle au 3216, qui est habitant du 9e arrondissement de Marseille. Bonjour Julien. Oui, vous travaillez bonjour. Vous-même dans l'immobilier. Est-ce que vous constatez malgré tout que derrière, alors les chiffres évidemment le disent, mais est-ce que sur le terrain, vous constatez aussi quand même qu'il y a un reflux ?
Absolument pas. Moi j'aurais bien voulu avoir des noms d'endroits, de cités ou de quartiers où justement le procureur avait constater une baisse d'activité du narcotrafic, parce que moi, dans le quotidien, je le vois pas. Et la seule chose que je ressens, c'est qu'en fait, la DZ Mafia, qui a complètement monopolisé le marché du narcotrafic à Marseille, ben, se comporte comme le ferait Carrefour. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez plus de concurrents, une fois que vous avez eu des magasins partout, une fois que vous avez tué la concurrence, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez les magasins et vous rentabilisez les points de deal qui restent. C'est uniquement ça, c'est un recentrage du marché. Et puis à côté de ça, c'est le service livraison, comme Carrefour. Et au contraire, moi, je serais très inquiet de voir que la DZ Mafia, ou quel que soit les narcotrafiquants, se comporte comme une multinationale. C'est-à-dire qu'on a vu la DZ Mafia s'implanter dans toutes les îles de France et exporter le concept narcotrafic marseillais à toutes les autres villes, Grenoble, Rennes, Nantes, etc., etc.
Julien, je veux que le procureur de la République puisse vous répondre, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Au fond, vous faites une lecture d'une logique commerciale, en fait, hein, purement commerciale, du capitalisme, où on tue la concurrence, puis une fois qu'on a tué la concurrence, en effet, bah, du coup, on a moins besoin de boutiques en dur, et où en plus, on fait le drive ou la livraison. Comment vous réagissez à ça, Nicolas Besson?
Alors, sur l'usage de tous les codes du capitalisme le plus débridé, je suis entièrement d'accord avec Julien.
Avec Julien.
Oui, je suis totalement d'accord avec lui. En revanche, quand vous habitez la cité de la Castellane et que vous aviez 5 points de deal et que vous n'en avez plus, vous vivez mieux, c'est incontestable. Quand vous avez 900 personnes qui sont placées en détention provisoire, pour un certain nombre d'entre eux, effectivement, et majoritairement de la DZ Mafia, vous n'avez pas réglé le phénomène, mais vous avez commencé à le juguler. Donc, voilà, il est évident que nous avons marqué des coups et qu'ils sont très tendus. Je vous rappelle, Madame de Malherbe, le FDFP, c'est-à-dire les attaques concertées pour éviter l'ouverture des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, sont la démonstration que les coups portés dans l'État sont efficaces. Mais je suis entièrement d'accord avec Julien, on est loin d'avoir gagné le combat et ce n'est que le début. Et moi, je peux lui dire que nous restons déterminés et qu'en tout état de cause, nous avons stopper un phénomène qui pouvait paraître à un moment donné hors de tout contrôle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, si je peux le rassurer, mais effectivement, il faudra des mois et il faudra des années pour régler la problématique. Et puis sur l'extension, effectivement, il est dans le 9e arrondissement, il existe quelques points de deal également dans les quartiers sud de Marseille, mais nous y travaillons.
Nicolas Besson, deux questions encore, l'une sur les consommateurs, l'autre sur la question de la saisie des avoirs des trafiquants. Sur les consommateurs, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est dit estomaqué parce qu'en janvier, lorsqu'ils ont fait un certain nombre de contrôles, j'allais dire au tout venant d'habitants, les chiffres lors de ces contrôles, c'est qu'une personne sur 12 détenait sur lui des stupéfiants. Ça veut dire que désormais, les gens, au lieu d'avoir un paquet de cigarettes, ils ont des stupéfiants. Donc, qu'est-ce que vous dites de ça? Les consommateurs sont-ils, comme le dit le président de la République, responsables du trafic? Et est-ce que désormais, c'est aussi une manière de vous attaquer au trafic que d'être beaucoup plus ferme avec les consommateurs de drogue?
Oui, le chiffre est impressionnant, une consommation décomplexée qui fait que naturellement vous avez un marché qui est immense et qui donc donne des moyens financiers considérables aux narcotrafiquants. C'est par cela que les consommateurs participent au trafic et je partage naturellement ce qu'a indiqué le président de la République.
Est-ce qu'il faut être beaucoup plus ferme? Est-ce qu'il faut appliquer vraiment les amendes, voire même les condamnations?
Avons mis en place, on a une multiplication de ce qu'on appelle les amendes pour usage de stupéfiants, d'ailleurs, dont le ministre de l'Intérieur a indiqué que le montant va être augmenté, mais derrière, il faut veiller au recouvrement. Et nous avons signé avec les finances publiques le fait de récupérer dans la fouille de toutes les personnes en garde à vue le numéraire pour payer ces amendes, parce qu'on peut être plus efficace. Donc ça, c'est pour le consommateur récréatif, mais je crois également qu'il faut mettre en œuvre un aspect sanitaire pour le toxicomane lourd qui mérite tout autant d'être soigné que d'être sanctionné.
Les deux, donc, en même temps, et une dernière question sur les avoirs des trafiquants. Avez-vous désormais davantage d'autorisation, de capacité à récupérer les avoirs, y compris à l'étranger, de tous ces trafiquants?
Oui, on a eu de très beaux résultats l'année dernière, notamment la saisie d'une trentaine d'appartements à Dubaï. Pour la première fois, les autorités dubaïotes acceptaient pour une autorité étrangère de saisir ces appartements. Moi, simplement, c'est pour vous dire la puissance financière que nous avons en face et pourquoi il faut travailler à fond sur le blanchiment. Ces 30 appartements évalués à 20 millions d'euros, c'était simplement les bénéfices d'un point de deal marseillais important, mais qui n'était pas le plus gros. Et c'était pas non plus celui qui était à la tête du point de deal. Donc vous imaginez les sommes d'argent qui sont générées, mais naturellement, c'est sur cela que nous travaillons et nous augmentons chaque année la saisie des avoirs criminels. Alors voilà, je suis pas là dans une logique, Madame de Maire, triomphale, bien au sûr. Contraire. Le travail sera long, mais je peux affirmer aujourd'hui que on a stoppé stopper l'évolution. On en est au début du reflux, mais il est réel et il faut rassurer votre auditeur. Nous travaillons, nous restons mobilisés et on a en tout cas stoppé la progression.
Merci beaucoup. Merci Nicolas Besson de nous avoir réservé vos mots ce matin. Nicolas Besson, donc procureur de la République à Marseille. Et merci aussi à Julien, effectivement, pour son témoignage depuis Marseille. Voix de droite sur RMC à 7h51. C'est Jérôme Lavrieux, notre voix de droite ce matin. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Ancien député européen UMP, chroniqueur évidemment dans l'émission d'Estelle Midi. 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, et surtout 5 ans d'inéligibilité qui ont donc été requis hier à l'encontre de Marine Le Pen. Vous demandez aux politiques d'arrêter le double discours. Ça veut dire quoi ça?
Ben, ça veut dire d'arrêter de nous raconter des carabistouilles, on dirait un célèbre philosophe à l'Élysée. C'est le double langage. Ferme, ça c'est le programme, mais pas pour nous. Ça,
vous nous le dites dans un instant, notre voix de droite, il est 7h52.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, notre voix de droite. Mais d'abord le bonus, Mathieu.
Un peu de Johnny ce matin.
Oui, déjà parce que ça fait plaisir.
Déjà parce que ça fait plaisir.
Mais aussi parce que pour les 10 ans de sa mort l'an prochain, Netflix annonce un tout nouveau projet. Et attention, on n'est pas dans le biopic là. C'est Danny Boone qui va écrire, réaliser et jouer dans une série qui s'appellera Johnny Biloute. Vous l'avez compris, on sera dans le schnorr. L'acteur, réalisateur, humoriste qui incarnera le personnage principal, Rudy, biker au grand cœur, prêt à tout pour défendre son club de motards et la mémoire de son idole, Johnny, vous l'avez compris, le rocker. Le tournage doit commencer en avril, dans le Nord donc, et en Belgique, 6 épisodes, 35 minutes chacun. Le reste du casting doit encore être révélé. J'ai hâte de démarrer le tournage de ma première série, dit Danny Boone, dans mon schnorr, que je retrouve avec bonheur pour faire rire, émouvoir et célébrer la mémoire de mon ami Johnny Hallyday, précise Danny Boone. La série est prévue pour 2027, donc pour les 10 ans de la mort de l'idole des jeunes.
Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, forcée de l'amour. Et j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche,
voix de droite.
Et comme tous les mercredis, c'est la voix de droite ce matin. Et c'est Jérôme Lavrieux. Bonjour Jérôme. 4 ans de prison requis contre Marine Le Pen hier, dont 3 avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Pour vous, Marine Le Pen est prise à son propre jeu.
Oui, parce que les élus, les législateurs notamment, à chaque campagne électorale, veulent de plus en plus de fermeté. De fermeté définitive, de fermeté immédiate. Marine Le Pen, à chaque campagne électorale, nous a proposé l'inéligibilité tout de suite, à vie, pour tout le monde. Mais on se rend compte que quand ça les concerne, eh bien, ils font marche arrière. Ils ont un peu de mal à considérer qu'ils peuvent encourir les peines qu'ils ont eux-mêmes votées, qu'ils devraient s'appliquer à eux-mêmes. Donc, les slogans, vous vous rappelez, dans les années 80 et 90, le Front National, le prédécesseur du Rassemblement National ripolliné, c'était tête haute et main propre. Et puis, quand il y a eu l'affaire Cahuzac, c'était l'inéligibilité immédiate et pour tous.
Marine Le Pen dit que si elle est condamnée, elle ne pourra pas se présenter.
Bah, techniquement, ça va être compliqué. Parce que si elle est condamnée, même si elle n'a pas d'inéligibilité immédiate, les délais vont être très courts. Et en ayant réclamé l'accélération du calendrier judiciaire, et la justice pour une fois a répondu avec célérité, eh bien elle sera définitivement condamnée, même si elle va en cassation, sans doute avant l'élection, impossible de faire campagne électorale.
Jérôme, on peut le dire, vous avez vous-même été condamné dans l'affaire Big Magnon à 5 ans d'inéligibilité. C'était l'application stricte d'une loi votée par les parlementaires.
Bien sûr. Et d'ailleurs, d'anciens parlementaires, dont Nicolas Sarkozy, ont été condamnés dans cette affaire. Et donc, c'est tout à fait normal de se l'appliquer. Comment les Français, de droite comme de gauche, pourraient considérer que les lois que leurs élus votent, en leur nom, ne s'appliqueraient pas à eux? Moi, j'ai été condamné. J'ai accepté ma peine. J'ai même pas été en cassation.
Vous avez assumé.
J'ai assumé. J'ai assumé ma faute. On a reconnu que j'avais pas piqué d'argent, mais j'avais pas bien fait les choses. Donc, je l'assume. Et c'est l'honneur des élus d'assumer la faute. Et l'inéligibilité, elle est tout à fait normale.
Donc, il ne faut pas remettre la faute sur le juge?
Mais non, le complot des juges, les juges rouges, la sévérité vis-à-vis des... Non, c'est pas vrai. Au contraire, Marine Le Pen, avec son accélération de la procédure judiciaire, c'est pour essayer de s'en sortir pour elle. Ça a été favorable pour elle. Donc non, au contraire, elle a plutôt eu un traitement de faveur.
Alors évidemment, depuis hier soir, le RN veut espérer une sorte de trou de souris. Ils disent réquisition ne vaut pas condamnation.
Oui, c'est vrai, ils ont raison. Réquisition ne vaut pas condamnation. On va attendre, sans doute au mois de juin, peut-être au mois de juillet, le délibéré. Mais quand on regarde, et vos journalistes l'ont bien dit, quand on regarde le fond des débats, les faits sont avérés. La seule chose sur laquelle ils essayent encore de se battre, c'est est-ce qu'il va y avoir l'inéligibilité provisoire ou pas provisoire. On rentre dans des calculs d'apothicaires qui sont un peu déconnectés de la réalité des choses. Marine Le Pen, vraisemblablement, ne pourra pas se présenter à l'élection.
Merci Jérôme Lavrieux, Voix de droite donc sur RMC ce matin, et on vous retrouve tout à l'heure dans l'émission d'Estelle Denis sur RMC à midi. Demain, 7h50, ce sera la Voix de gauche. Cécile Duflo, dans un instant, le journal de 8h. Le vapotage, une bonne chose pour arrêter de fumer, mais attention, la cigarette électronique, elle reste dangereuse dans la durée. On vous explique tout dans un instant. Côté météo, bah, c'est encore de la pluie. Et puis juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, attention à nos réseaux sociaux si on cherche du boulot.
Oui, absolument, ce que vous postez peut avoir une influence déterminante sur votre carrière.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h58.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h, merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Vous allez avoir envie d'arrêter la cigarette électronique ce matin. Une étude inédite des autorités sanitaires alerte sur les dangers du vapotage. On s'y met souvent pour arrêter de fumer. Le problème, c'est qu'on finit par devenir accro, vous verrez. On sera dans le journal en direct de Sanary-sur-Mer au lendemain de l'agression d'une enseignante dans un état stable ce matin, poignardée par un collégien de seulement 14 ans. Entrer dans son établissement avec un couteau. Et vous entendrez les réactions au RN ce matin au lendemain des réquisitions au procès en appel des assistants parlementaires. On saura cet été si Marine Le Pen est candidate à la présidentielle.
Bon, pour ceux qui en doutaient, la cigarette électronique est bien dangereuse pour la santé.
Il y a 3 millions de Français qui vapotent en France et qui ne se privent pas de le faire en intérieur d'ailleurs, alors que c'est mauvais pour la santé. L'Agence de sécurité sanitaire a compilé plus de 2800 publications et c'est la première fois qu'on a donc une étude d'une telle ampleur. Elle nous dit, Romain Houck pour RMC, que c'est moins dangereux que la cigarette classique, mais que c'est pas bon du tout.
Oui, parce que quand vous vapotez, vous inhalez des substances toxiques. L'agence sanitaire en répertorie plus d'une centaine particulièrement préoccupantes. Des substances liées aux métaux présents dans les liquides, mais aussi des substances qui se forment lorsque ce liquide est chauffé, comme les aldéhydes, un composé qui se fixe sur les tissus respiratoires et les dégrade. Et parmi les autres constats, le vapotage peut endommager vos cellules et ainsi favoriser un terrain cancéreux. Il peut aussi entraîner l'apparition de maladies pulmonaires et cardiovasculaires en s'attaquant à votre fréquence cardiaque, à votre pression artérielle. Et ce, c'est important, même si le liquide est sans nicotine. Enfin, vapoter lorsque l'on est enceinte présente les mêmes risques pour le fœtus.
Alors, que disent les autorités sanitaires aux vapoteurs ?
Eh bien, votre cigarette électronique doit uniquement vous servir à arrêter de fumer du tabac et sur la période la plus courte possible. Parce que, en plus des risques directs sur la santé, l'autre enseignement de cette étude, c'est que la fumée de la cigarette électronique, lorsqu'elle contient de la nicotine, est tout autant addictive que la fumée de cigarettes classiques. Près de 60% des usagers vapotent depuis plus de 2 ans. Enfin, l'agence demande à protéger les plus jeunes, souvent ciblés par le marketing agressif de ces produits au goût fruité et sucré.
Voilà toutes les explications ce matin signées Romain Houck pour RMC. Des nouvelles ce matin de l'enseignante de 60 ans, poignardée par un élève hier dans un collège de Sanary-sur-Mer dans le Var. Son état est stable, mais toujours grave. L'élève en question a passé la nuit en garde à vue. C'est donc un collégien de 14 ans. Pierre Bazin, vous êtes l'envoyé spécial de RMC en direct ce matin devant le collège de la Guicharde de Sanary-sur-Mer. On se demande toujours pourquoi il a fait ça ce matin. Il aurait fait part de ses envies de vengeance.
Oui, c'est en tout cas ce qu'ont pu confier certains de ses camarades dans la foulée des faits. Des éléments, évidemment, en cours de vérification par les enquêteurs. Mais dès hier, le procureur de Toulon, qui exclut à ce stade tout motif religieux ou politique, a expliqué que la professeure de 60 ans, victime des coups de couteau, avait rédigé plusieurs rapports pour signaler le comportement du jeune homme de 14 ans. Des signalements qui exposaient le suspect à une exclusion temporaire et qui auraient donc pu générer une envie de vengeance. C'est en tout cas une piste de travail des policiers qui s'intéressent à cette adolescent, décrit par d'autres professeurs comme un élève perturbateur et agaçant, coutumier des sanctions disciplinaires. Pour autant, avant les faits, rien ne laissait penser qu'il s'agissait d'un jeune homme violent. C'est en tout cas ce qu'ont conclu les expertises menées à la demande d'un juge pour enfants suite à une mesure d'assistance éducative. Mesure qui devait permettre de protéger le suspect et sa sœur après des soupçons de violence intrafamiliale dont ils auraient pu être victimes. En septembre 2025, cet adolescent était alors décrit comme peu loquace, mais ne présentant jusque-là aucun élément de dangerosité.
Voilà, il n'y a pas de cours hein, ce matin devant ce collège de Sanary-sur-Mer où vous êtes en direct, Pierre Bazin pour RMC. Et alors il y a une autre question qui se pose, c'est comment est-ce qu'il a fait pour rentrer dans son collège avec un couteau alors que les contrôles ont été renforcés. Il y en a eu 12 000 des contrôles l'année dernière dans le pays, entre mars et décembre précisément, permettant de saisir 525 armes blanches. C'est ce que disait dans la soirée le ministre de l'Éducation, Édouard Geffrey.
Ce que ça dit, c'est que l'interception du couteau ne fait pas l'interception du criminel. Et quand vous êtes sur un acte imprévisible, isolé comme celui-ci, le risque zéro, clairement, n'existe pas. Donc on fait évidemment notre possible. Mais malheureusement, il peut y avoir des circonstances aussi dramatiques que celle-ci où rien ne laissait présager ce passage à l'acte.
C'est une longue attente qui commence donc au Rassemblement national. On est, vous le savez, au lendemain des réquisitions au procès en appel des assistants parlementaires européens du FN. Le jugement est attendu avant l'été. 4 ans de prison, dont un enferme, et 5 ans d'inéligibilité sont requis contre Marine Le Pen, sans exécution provisoire cette fois. C'est l'hypothèse d'une candidature à la présidentielle qui s'assombrit ce matin pour elle. Alors que va-t-elle faire? Question posée ce matin sur RMC. Écoutez au porte-parole du RN, Philippe Ballard.
Une élection présidentielle, c'est une énorme machine qu'il faut mettre en marche. Alors, il y a toujours les fameuses 500 signatures, mais il y a l'aspect financier. C'est pas une cagnotte litchi, hein, puis c'est ad hominem. Et puis, il y a les commandes, toute la logistique, les commandes de papier, les affiches, les tracts à commander. Enfin, il faut s'y prendre bien plus tôt. Donc, voilà, Marine Le Pen prendra sa décision donc après ce jugement au mois de juin ou juillet.
On en parlait hier matin, à ce temps-là, sur RMC. Le Sénat a donné un premier feu vert au projet de loi du gouvernement visant à renforcer les pouvoirs des 28 000 policiers municipaux. On s'approche de la pleine mer dans l'ouest, sur la côte atlantique. Des débordements sont attendus là, ce matin, en ce moment, à Bordeaux, à Libourne, en Gironde, département qui est toujours en vigilance orange pour les crues. Hier, c'est à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, dans le secteur d'Antibes, que c'était le déluge. Très, très gros orage, inondation de ruelles avec de la grêle. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en seulement une soirée.
Et puis, c'est un peu le début des Jeux Olympiques d'hiver ce matin.
Oui, les premières épreuves commencent en attendant la cérémonie d'ouverture vendredi. Ce sera à Milan, des matchs de tour préliminaire de curling. Il y aura aussi les entraînements ce matin de la descente en ski alpin chez les messieurs. Alors, il y a une des stars des Jeux, l'américaine Lindsey Vonn. 41 ans, elle fait l'actualité ce matin. Pourquoi ? Parce qu'elle confirme qu'elle participera bien aux Jeux. Malgré une rupture des ligaments croisés antérieurs depuis une chute récemment en Suisse, ça paraît fou, hein, Kevin Morand.
Oui, vendredi dernier, la championne olympique 2010 avait dû être héliportée après sa chute à Crans-Montana. Malgré sa rupture du ligament croisé antérieur et une lésion du ménisque, Lindsey Vonn tient à son rêve olympique.
Mon genou n'est pas enflé et grâce à une genouillère, je suis confiante de pouvoir participer à la compétition dimanche. Je sais quelles étaient mes chances avant, elles ne sont plus les mêmes aujourd'hui, mais tant qu'il y a une chance, j'essaierai.
À 41 ans, l'américaine dit avoir skié hier et refuse de renoncer à l'objectif pour lequel elle était sortie la saison dernière, de sa retraite après 5 ans.
Moi, je pense que ça peut le faire.
Le médecin du sport, Michel Gaillot.
C'est pas du slalom, c'est de la descente. Il y a assez peu de virages, donc on a moins de sollicitations en rotation. Sur du one-shot, ça pourrait tenir.
L'ancien snowboarder français, Pierre Voltier, a connu la même blessure 2 mois avant les Jeux en 2014, où il avait remporté la médaille d'or.
C'est clairement une situation que je comprends. Et quand le chirurgien m'a dit « t'as une chance quand même d'aller aux Jeux », j'ai signé, mais tout de suite, le fait que ça paraisse impossible, on veut y aller.
Malgré des blessures qu'elle estime encore plus graves, la skieuse américaine avait décroché une médaille de bronze au championnat du monde en 2019.
Bon, et puis la Coupe de France de football, ça continue. 5/8 de finale encore ce soir, au lendemain des qualifications de Reims et de Marseille. Hein, Marseille qui s'est donné de l'air 3-0 contre Rennes hier soir, en attendant le choc de dimanche contre Paris.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre, ce matin, vous nous mettez en garde contre ce que l'on poste sur nos réseaux sociaux parce que notre carrière en dépend.
Oui, c'est vraiment un conseil qu'il faut donner à tout le monde et en particulier aux jeunes. Ne postez pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux et dites-vous même que poster intelligemment pourrait booster votre carrière. Alors pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, 8 recruteurs sur 10 consultent les réseaux sociaux des candidats à l'embauche au cours du processus de recrutement et c'est quasi systématique pour la moitié d'entre eux. C'est ce que montre une étude que vient de publier la plateforme de recrutement Indeed. Tenez-vous bien, 62% des recruteurs ont déjà recalé un candidat en raison de son profil sur les réseaux sociaux.
C'est devenu la norme dans toutes les entreprises ?
Alors, c'est surtout dans les PME que la vérification des réseaux sociaux des candidats est la plus fréquente, peut-être parce qu'il n'y a pas de DRH aussi bien équipé que dans les grands groupes. Cette utilisation des réseaux sociaux est deux fois plus fréquente que dans les petites entreprises de moins de 10 salariés. Et puis, il y a des différences aussi selon les secteurs. Certaines professions se montrent particulièrement regardantes. Dans les métiers juridiques, c'est systématique 100%. Des CV sont vérifiés et de ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, c'est quasi systématique aussi. Dans l'industrie, l'architecture ou la finance, il y a des secteurs où c'est moins pratiqué, comme les métiers de l'art, de la culture ou du transport.
Qu'est-ce que les recruteurs veulent apprendre en regardant sur les réseaux sociaux?
Alors, d'abord, ils recherchent tout ce qui permet finalement de mieux comprendre la personnalité et les centres d'intérêt du candidat. Ce qui est recherché aussi, c'est de recouper les infos du CV avec celles des réseaux sociaux pour voir s'il n'y a pas des incohérences. Et puis, faut pas se mentir, hein, les recruteurs cherchent aussi à détecter les comportements qu'ils jugent problématiques. Alors, qu'est-ce qui les pousse à rejeter une candidature? Je vous donne les chiffres, c'est important. D'abord et avant tout, les incohérences entre le CV, la candidature et les réseaux sociaux, ça c'est plus de la moitié des rejet de candidature. Ensuite, les comportements jugés irresponsables qui peuvent avoir des conséquences en entreprise, ça c'est presque la moitié. Les contenus offensants ou discriminatoires, et puis les opinions controversées ou politiques un peu inflammables, on va dire. Ça c'est que 25% à peu près des refus de candidature.
Merci pour les conseils, Emmanuel Le Chypre. Il est 8h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Mathieu, on prend le temps de regarder les messages de nos auditeurs ce matin. Ils réagissent nombreux à ces professeurs qui sont désormais menacés après l'attaque donc de cette prof d'art plastique par son élève de 14 ans.
À Sanary-sur-Mer, l'émotion ce matin, la santé mentale des élèves, la sécurité des établissements. Dans vos messages, comme Romuald qui nous écrit « Encore une prof agressée, on va faire quoi ? On va interroger, le laisser sortir parce qu'il est mineur, qu'on en finisse. Faut de la répression mineure ou pas ?» Le débat s'est porté aussi ce matin sur les portiques de sécurité. Cédric nous écrit « Mettre des portiques devant les écoles, mais où va-t-on ? Ça me révolte. » Bruno nous dit « C'est quoi ces portiques, mais c'est quoi cette justice? Un couteau en céramique, ça suffirait pour passer. » Voilà ce qu'il écrit. On a aussi parlé des écrans et de leur impact nocif sur les enfants. Ali nous écrit « Je suis désolé, mais il faut arrêter de tout mettre sur le dos des réseaux sociaux. Il faut aussi à un moment, en tant que parent, se remettre en question. » Ce genre de message qui fait réagir aussi Audrey, qui nous dit « J'ai un enfant de 14 ans qui souffre de pathologie psychiatrique. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'on vit et de l'enfer des déserts de prise en charge. Mon fils est dangereux et aurait été capable de faire la même chose. C'est dingue de mettre les parents en cause sans savoir. » Voilà ce qu'écrit Audrey ce matin en réaction au débat qu'on a pu avoir aujourd'hui. Vous continuez à réagir si vous le souhaitez. Le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Notez que dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint en direct. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera Manuel Bompard sur RMC et BFM TV. Et juste après, comme chaque matin, Nicolas Canteloup et ses imitations face à Canteloup. C'est tous les jours à 8h50 sur RMC. À tout de suite, 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Il est 8h13 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Arnaud Demanche qui nous rejoint.
Bonjour tous les amis. Alors, ce matin, voilà, je sais, on va encore causer du budget, de l'Iran, de Marine Le Pen. On est en février, il pleut, quoi. Moi, j'ai envie de vous faire kiffer le matin. Vous voyez ? Alors, avant l'actu, je propose de vous emmener tous en boîte de nuit. Pascal, Géraldine, faites chauffer le soutif à paillettes. Vous aussi, et vous aussi, Mathieu. On y va. Car une boîte portant le nom de Trump va ouvrir à Bourges le 14 février.
Mais non !
Si, c'est vrai, rien de tel pour passer une belle Saint-Valentin à Pau. Un week-end en amoureux dans le Poitou pour inaugurer un nightclub Trump. Hein ? Alain Bauer vous y attend déjà, au bar. Il regarde les couples s'enlacer sur Hôtel California en se disant oh, « Ça aurait dû être Apolline et moi, je suis tellement déprimé. Pour me consoler, je vais écrire un livre sur l'Iran. » Alors, la dictature est terrible, les États-Unis interviendront, les Mollahs, les chiites, le détroit d'Hormuz. Aïe, j'ai fini. Et hop, une invite à la matinale. Et comme ça, il va enfin vous voir.
C'était que ça,
alors, les mineurs ne sont pas autorisés à entrer à l'intérieur du Trump, alors que Trump s'autorisait, lui, à rentrer dans des mineurs, d'après les dossiers Epstein. L'affaire Epstein qui éclabousse la politique française avec Jack Lang qui est dedans. Cette phrase est d'ailleurs tirée d'un verbatim des auditions. Jack Lang est dedans.
Non.
Mais c'est incroyable, incroyable. Pourquoi lui? Si Jeffrey Epstein voulait s'amuser avec un humain en plastique qui pouvait commander une poupée sur Chine ou passer au BHV, faut qu'on le fasse venir sur RMC Jack Lang. Alors les techniciens, faudra juste pas régler les spots trop fort, sinon il va fondre tout en plastique, ce monsieur. Mais j'en reviens toujours pas, Jack Lang. Autant Giscard, c'était évident
On connaît Giscard, très séducteur. Je l'ai dit, sur le siège arrière avec l'abbé Pierre. Raymond Barre en slip en cuir avec Mitterrand. Ouf, ouf, ouf. Je suis une souillon. Appelez-moi Dieu. Mets-toi à quatre pattes. Il y a Marché qui arrive avec un sextoy. J'ai retrouvé des vieilles VHS du bébé de chose.
Mais qu'est-ce que c'est que ce
délire ? Si on a le code, c'est hilarant, Apolline. Hein. Regardez-les, ça n'a pas vieilli. C'est comme Pierre Desproges. Ah, Jean Roucas, qui nous regarde de là-haut. Alors, bref, l'actu, on va en parler quand même. Nous sommes le 4 février 87,
oui.
Pardon, 2026. Et Marine Le Pen assistait hier au réquisitoire dans son procès en appel pour un détournement de fonds. 5 ans d'inéligibilité requis, 1 an de prison ferme, ça devient compliqué pour 2027. Puis on la sent démotivée là, elle veut plus se battre. Toute sa défense, ça a été « Oui, oui, oh, si j'avais su que je me ferais choper, je l'aurais pas fait, hein, évidemment, je peux plus bête que Balkany. Hein. » Tout le monde m'a dit que vous étiez laxiste aussi, les juges, faudrait savoir. Mais non, bats-toi Marine, résiste, prouve que tu existes non. pour la justice. Parce que nous, pourquoi on serait condamné à 5 ans ferme de Jordan Bardella, le même qu'elle en moins bien ? Ben non, on n'a rien fait, monsieur le juge. Moi, j'ai pas détourné d'argent du Parlement européen. Je suis même pas dans les listes Epstein. Alors qu'à l'époque, j'avais 12 ans, j'aurais pu. Hein. Mais j'étais occupé à la paroisse à Versailles. Je me suis fait avoir d'ailleurs. Hein, parce que d'un côté, il y avait une île dans les Caraïbes. De l'autre, un presbytère pas chauffé dans les Yvelines. Je me suis fait arnaquer. Hein. Vraiment.
Oh non. Le géant français de l'informatique Capgemini a annoncé la mise en vente de sa filiale américaine qui aide la fameuse police américaine de l'immigration à localiser les migrants.
Et ça a fait scandale. Rendez-vous compte, une société française qui vend des choses ignobles autour du monde. Comme si la vache qui rit ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'on a fait au monde, hein ? Les membres du gouvernement ont fait les vierges effarouchées en disant « Que hua ? Que ment ? Nous vendons des services pour nuire à l'être humain, nous les Français ?» Le peuple des Lumières. Les Mirage 2000 qu'on vend au pays du Golfe, c'est pas juste pour faire joli dans les défilés. Hein. Les 5 sous-marins qu'on a vendus au Pakistan, ils sont pas là pour étudier la reproduction des poulpes dans l'océan Indien.
Ah
c'est
bon
pas leur priorité. Ah non, alors que c'est fascinant, Apolline. Fascinant.
Le poulpe dominant pointe de manière ityphalique son ectocolite qui sert d'organe copulateur afin d'introduire les gamètes dans la femelle poule.
J'arrête, hein, je vois bien que j'excite tout le monde. Alors la France, c'est le 2e pays exportateur d'armes dans le monde, notre PIB. Voilà, c'est le luxe et la guerre, c'est veuve Clicquot et veuve tout court. Allez, bing ! La puissance de la formule. C'est pas hilarant, mais à la rédaction de Ciel et Espace, ils ont adoré. Il a adoré le gars.
L'eurodéputé Marion Maréchal a déclaré qu'elle ne croyait pas que son grand-père, Jean-Marie Le Pen, était antisémite.
Oui, elle a dit... Est-ce que les condamnations sondent le cœur des hommes ? Je ne crois pas. Heureusement qu'elle n'est pas avocate, hein. Monsieur le juge, est-ce que les condamnations de mon client, Francis Holm, sondent réellement son cœur, qui n'est que fragilité et sensibilité, n'est-ce pas, Francis ?
Marion, est-ce que tu buzzes ?
Alors, Jean-Marie Le Pen avait une maison de disques qui éditait des chants nazis et disait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Mais vous connaissez les gens, Apolline, ils voient le mal partout. Voilà. Si ça se trouve, Jean-Marie Le Pen rêvait secrètement d'être investi par LFI aux élections. Mais après, on n'est jamais vraiment objectif quand ça concerne sa famille. Louis Sarkozy pense que son père est innocent. Jésus pensait que sa mère était vierge. Éric Ciotti, son père Jean-Claude Duss, il pensait qu'il allait conclure. On se fait avoir tout le temps. Allez, à demain.
Sur un malentendu,
ça marche.
Merci Arnaud Demange.
Détendez-vous sur RMC avec Sup de Com, une école du réseau compétences et développement.
Dans un instant, le face-à-face, mais je voudrais d'abord qu'on donne la parole à Manu qui nous appelle de Nîmes. Bonjour Manu, vous vouliez réagir à ce qui s'est passé à Sanary, au collège, ce jeune de 14 ans qui a poignardé sa prof.
Oui, bonjour Apolline, bonjour à toute votre équipe.
Bonjour Manu.
Oui, comme je l'ai dit aux standardistes, moi je trouve que maintenant, il y a 3 problèmes. Il y a le manque d'éducation des parents, qui sont souvent démissionnaires maintenant, de nos jours, face à nos ados. Ils ont tendance à jeter l'éponge, quoi. L'ensauvagement de la société, les jeunes manquent de respect à tout le monde maintenant, aux profs, aux parents, aux autorités policières. Moi je le vois le week-end, c'est aux arbitres aussi, sur les stades de foot. Plus rien ne leur fait peur, quoi. Maintenant,
c'est pas de limite, quoi. Il y a pas de limite.
Voilà, il y a pas de limite. C'est presque un acte isolé, mais c'est presque une banalité, quoi. Maintenant, ça émeut plus personne. J'ai l'impression que c'est devenu presque courant. Quoi. La semaine dernière, c'était une petite jeune qui s'est fait violer, tabasser, brûler
par d'autres jeunes.
La semaine prochaine, ça sera peut-être autre chose. Malheureusement, ça fait partie de notre société maintenant. Et
Manu, vous êtes dans le domaine du foot, vous disiez, parce que je sais que vous êtes chauffeur poids lourd, mais vous disiez, je voyais le week-end dernier même les arbitres. C'est-à-dire que vous avez l'impression que désormais, dans quelques terrains que ce soit en quelque sorte, et y compris dans le sport, on respecte pas l'autorité sur l'arbitre. Plus. L'arbitre, c'est un peu le prof, quoi, mais sur le terrain.
Voilà, ouais. Ben, on le respecte plus, on lui parle comme si c'était notre collègue. Les parents autour, ben, ils font que, on va dire... faire grossir la chose parce que ça envenime, il y a de l'animosité autour du stade.
Vous êtes parent vous-même, Manu ?
Oui, d'un petit garçon de 12 ans, ouais.
Qui fait du foot ?
Qui fait du foot, ouais, et je le vois tous les week-ends. Tous les week-ends, l'arbitre, il est conspué, on respecte jamais sa décision. Alors, est-ce que c'est les professionnels qui devraient montrer l'exemple à ne pas parler ou être comme dans le rugby à savoir respecter une décision, je sais pas, mais maintenant ça devient une banalité.
Vous êtes inquiet globalement, Manu.
Voilà, tout à fait. Je suis inquiet pour mon enfant et pour les autres aussi, parce que les générations qui arrivent, il y a plus de limites.
Merci d'avoir réagi ce matin, Manu qui est chauffeur poids lourd à Nîmes. Il est 8h22 sur RMC et BFM TV. Dans un instant, mon invité, c'est le patron de la France Insoumise, lui-même député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard. Ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
On en sait plus ce matin sur le profil de l'adolescent qui a poignardé son enseignante hier à Sanary-sur-Marne, sur Mer, dans le Var. Un élève de 3e qui avait manifestement des griefs contre sa prof d'art plastique. Elle se trouve dans un état stable, mais son pronostic vital est toujours engagé ce matin. Pour l'heure, les motifs religieux et politiques semblent écartés. La porte de la présidentielle se referme un peu plus sur Marine Le Pen après les réquisitions prononcées hier au procès en appel des assistants parlementaires du Front National. 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, et 5 ans d'inéligibilité, mais cette fois sans exécution immédiate. Des trombes d'eau se sont abattues sur la Côte d'Azur hier soir. 86 mm à Antibes, soit l'équivalent d'un mois de pluie tombé en seulement quelques heures. Conséquence d'un orage stationnaire. En football, l'Olympique de Marseille pense ses plaies et se rassure un peu en Coupe de France avec une victoire 3-0 face à Rennes hier soir et une qualification pour les quarts de finale. On revient sur la météo avec la Gironde, toujours en vigilance orange au cru. Une nouvelle perturbation arrive par l'Atlantique aujourd'hui. Dans le même temps, on a encore des remontées de Méditerranée. En journée, il pleuvra de la Bretagne à la Méditerranée avec du vent. Ailleurs, de l'Auvergne aux Alpes et au nord du pays, ce sera calme avec un soleil voilé. Peu de changements côté température.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est Manuel Bompard. Manuel Bompard, le patron de la France Insoumise. Le budget est passé et maintenant, on fait quoi? Et puis Manuel Bompard, je vais évidemment interroger aussi sur les réquisitions à l'encontre de Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, lors de la dernière condamnation, avait estimé que ça n'était pas au juge, mais au peuple de décider du sort de Marine Le Pen. Le pense-t-il toujours? Réponse de Manuel Bompard dans un instant.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise, le patron quoi, et vous êtes également député la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Nombreuses questions à vous poser sur l'état de la France, le budget qui a finalement été adopté malgré vos motions de censure, mais une question d'abord sur les réquisitions à l'encontre de Marine Le Pen hier. Une peine de 5 ans d'inéligibilité, 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, la possibilité d'aménager la partie ferme sous bracelet électronique, 100 000 euros d'amende, voilà ce qui a été réclamé hier par le parquet général. À l'époque de la première condamnation, Jean-Luc Mélenchon avait déclaré que la décision de destituer un élu devait revenir au peuple, sous-entendu pas au juge. Le dites-vous encore aujourd'hui?
Ce que nous disions à l'époque du procès en première lecture, en quelque sorte, en première instance, pardon, première lecture c'est pour les textes, c'est que une décision aussi grave que celle qui consiste à déclarer une potentielle candidate à l'élection présidentielle inéligible, de notre point de vue, ne pouvait pas être prise sans que l'ensemble des voies de recours judiciaire puissent être invoquées. Là, en l'occurrence, Madame Le Pen a eu quand même la possibilité d'avoir un procès en appel qui se tient avant l'élection présidentielle. Si elle n'est pas satisfaite des modalités du jugement, elle a le pouvoir de se pourvoir en cassation, comme on dit. On sait d'ores et déjà, en tout cas c'est des informations qu'on a eues, que cette éventuelle instruction en cassation aurait lieu aussi avant l'élection présidentielle.
À deux mois.
C'est vrai, vous avez raison. Mais voilà, il me semble que du point de vue de ce qu'on pouvait en quelque sorte être sur les éléments sur lesquels on pouvait être prudent après le jugement en première instance, nécessitant la possibilité d'un recours, il me semble que Madame Le Pen, d'un certain point de vue, peut être rassurée du fait qu'elle a eu le droit à ces différentes voies de recours.
Vous estimez que la justice, là, ne prend pas la place du peuple?
Bah, bien sûr que quand vous avez une peine d'inéligibilité, ça empêche une candidate ou un candidat à une élection de pouvoir se présenter. Et moi, je préfère toujours que ça soit le peuple qui dise son dernier mot. Mais là, en l'occurrence, on parle quand même de faits qui sont des faits extrêmement graves. On parle de détournement qui se chiffre à 4 millions d'euros. C'est des sommes qui sont des sommes considérables. Moi, je suis très attaché au fait que les voies de recours puisse être engagée. Et là, il me semble que les voies de recours
ont été engagées.
Les voies
de recours engagées. La question de l'inéligibilité avec une application immédiate, ce qu'on appelle exécution provisoire, est-ce que vous considérez, au-delà de la question de Marine Le Pen, qu'il ne faut pas que ça existe? C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que cet outil, qui en effet fait que certains politiques pourraient ne pas pouvoir se présenter de manière immédiate, malgré un appel ou un pourvoi en cassation, est-ce que ça vous considérez qu'il faut supprimer des textes?
Bah, ça mérite débat, parce que je sais que l'exécution provisoire, elle est parfois mise en place sur certaines peines dans lesquelles on considère que même si il y a une possibilité de faire un appel, c'est dangereux pour la société que la personne puisse rester en liberté. Mais il faut toujours proportionner ce type d'éléments, parce que le principe de la justice, c'est qu'une fois qu'on a été jugé une fois, on doit pouvoir faire un appel. C'est comme ça qu'on peut être sûr à la fin, en quelque sorte, que la décision judiciaire, elle s'appuie et elle a été prise par des personnes différentes. C'est quelque chose de très important. Donc moi, je trouve que la question de l'exécution provisoire, elle doit être vraiment réduite à des cas très particuliers, qui sont des cas où il y a une
gravité.
Il me semble. En tout cas, je trouve que ça mérite vraiment débat. Mais là, en l'occurrence, je fais remarquer quand même que Madame Le Pen et le Rassemblement National a beaucoup critiqué la décision, y compris dans des termes qui étaient vraiment des termes extrêmement agressifs et violents après le jugement en première instance. À l'époque, ils disaient c'est scandaleux qu'il y ait eu l'exécution provisoire, mais là, en l'occurrence, puisqu'il y a le jugement en appel, je considère que leur argument, si vous voulez, il est tombé.
Cet argument-là, pour vous, est tombé. Manuel Bompard, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s'adressant à vous et au RN d'ailleurs, a dit « Vous aurez devant l'histoire à en répondre à propos du fait que vous avez tenté de ne pas faire aboutir ce budget. L'avez-vous seulement lu, ce budget? Vous a même demandé Sébastien.
Ah oui, je l'ai lu, moi. Moi, je l'ai lu. Et donc, je sais que dans ce budget, il y a par exemple 4000 postes d'enseignants qui sont supprimés. J'ai lu ce budget, donc je sais qu'il y a 3000 postes de surveillants qui sont supprimés. J'ai lu ce budget, donc je sais que par exemple, on va supprimer les aides pour le logement pour les étudiants étrangers. J'ai lu ce budget, donc je sais par exemple que à l'intérieur, on va supprimer un crédit d'impôt pour les personnes âgées quand elles ont besoin de faire des travaux, vous savez, pour pouvoir rester à domicile, quand on a besoin d'adapter sa douche, par exemple, parce qu'on commence à être âgé et qu'on a un problème pour utiliser sa salle de bain. Vous voyez, moi, j'ai lu ce budget, que je sais que, par exemple, on va y retirer la prime de Noël pour une partie des personnes qui sont allocataires du RSA. Et contrairement à ce que dit le gouvernement,
qui dit que c'est pas vrai.
Eh ben, regardez dans les textes et regardez dans les amendements et dites-moi pourquoi le montant qui est alloué à la prime de Noël pour les allocataires du RSA a bien été diminué par deux. Voyez, moi je l'ai lu, peut-être, je sais pas si monsieur Lecornu l'a lu, mais moi je l'ai lu. Je l'ai lu précisément. Et je sais que ce budget, il va faire beaucoup de mal pour notre pays. Je l'ai lu aussi, pardon, je veux pas faire toute la liste, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le budget.
Mais allez-y, c'est le moment.
Mais je sais que contrairement à ce qu'a dit monsieur Lecornu, qui a menti sur ce sujet, le fonds vert, c'est-à-dire les fonds qui sont alloués aux collectivités locales pour des projets de transition écologique, ils baissent par rapport à l'année dernière. Et ce qu'on appelle les crédits alloués à la rénovation, ma prime rénove, le dispositif qui est alloué pour les gens qui organisent la rénovation thermique ou énergétique de leur bâtiment, il baisse par rapport à l'année dernière. Vous voyez, monsieur Lecornu, je sais pas, peut-être que lui il l'a bien lu, mais c'est plus grave s'il l'a bien lu, parce que non seulement il l'a lu et après il a menti.
Est-ce que vous estimez que le Parti Socialiste s'est fait avoir?
Ah, mais évidemment, écoutez, le Parti Socialiste, au mois de septembre, madame de Malherbe, je vous invite à faire ce travail. Ils ont présenté leur contre-budget. Et forcément, au début d'une discussion budgétaire, quand vous présentez votre compte budget, bah, c'est une base de négociation. Il y avait 20 mesures qui concernaient soit des nouvelles recettes, soit des investissements que le Parti Socialiste considérait utiles. Est-ce que vous savez, madame de Malherbe, combien dans le budget de monsieur Lecornu, il y a parmi ces 20 mesures? Je vais vous répondre. Vous savez combien? Zéro. Voilà.
Il y a
donc
zéro.
Ils n'ont obtenu aucune des mesures de leur contre-budget.
Pas les mesures de nouvelles recettes ou d'investissements indispensables, type les transports en commun, la transition écologique, que eux considéraient comme étant leur priorité.
Pourquoi ils ont accepté ce budget?
Posez-leur la question. Moi, je suis pas parti socialiste, mais manifestement, ils avaient tellement peur que des élections législatives puissent avoir lieu qu'ils ont été prêts à tout accepter.
Mais il y a des points sur lesquels ils sont extrêmement fiers d'avoir obtenu des choses. Un des derniers, c'est le repas à 1 € pour les étudiants.
Alors, vous savez, je veux dire deux choses sur ça. D'abord, l'année dernière...
C'est bien dans le budget, ça.
Oui. Attendez, c'est bien dans le budget, mais on va rentrer dans les détails.
Allez-y.
Vous savez, dans le budget, il faut regarder... C'est comme les contrats d'assurance. Il faut regarder
les
astérisques. D'abord, c'est une proposition qui a été votée l'année dernière à l'Assemblée nationale. À l'unanimité, il y a eu juste les macronistes qui se sont abstenus. Donc c'est un peu gonflé d'expliquer que maintenant, il faut remercier le gouvernement de mettre en place des choses qui sont votées à l'Assemblée nationale. Mais surtout, moi, en tant que député, depuis qu'il y a eu cette annonce, je reçois des mails, des CROUS qui disent « Attendez, on a un problème, c'est qu'il y a eu cette annonce qui a été faite, mais les moyens qui nous sont alloués sont en baisse par rapport à l'année précédente, donc on voit pas comment on va pouvoir la mettre en œuvre, cette mesure. »
Donc en fait, on leur dit qu'ils auront ça, mais ils ont pas les sous qui vont...
Je sais pas comment ils vont faire, ou alors ils vont devoir couper ailleurs, parce que les budgets de la vie étudiante, ils baissent. Donc vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entourloupes, et moi je pense que les entourloupes, ça suffit maintenant, et que le Parti Socialiste assume une très lourde responsabilité en maintenant le gouvernement au pouvoir, en laissant passer ce budget, qui est, je crois, avoir donné un certain nombre d'éléments qui montrent à quel point il est problématique, et puis en laissant un gouvernement en place qui met une politique, et une politique que l'on combat. D'ailleurs, vu que le PS avait fait un communiqué... contre les suppressions de 4000 postes d'enseignants. Ah bah très bien, mais si vous êtes contre, il fallait censurer le gouvernement, c'est plus simple, ça évite que ça
ait lieu.
Donc il va y avoir des élections municipales le 15 et le 22 mars, et ça va être aussi l'occasion de sanctionner toutes celles et ceux qui ont laissé passer ce budget.
J'y viens au municipal dans un instant, mais une question aussi sur les documents de l'affaire Epstein. Je reçois dans un peu plus d'une demi-heure sur BFM TV Jack Lang, qui dit assumer les liens établis avec Jeffrey Epstein, lui-même et sa fille. Vous demandez une commission d'enquête?
Oui, je pense que c'est nécessaire. C'est une proposition que notre groupe a formulée. Je pense que le mieux, c'est qu'elle soit transpartisane. Donc, nous, on propose à co-signature aux autres parlementaires. Parce que les révélations, et notamment les dernières révélations, les documents qui ont été révélés, ils posent un certain nombre de questions qui sont des questions légitimes. D'abord, il y a un certain nombre de personnalités qui sont citées à l'intérieur. Alors, moi, je suis pas juge, je suis pas procureur.
Le seul pour lequel, alors, il y a des millions,
mais il faut qu'il y ait des enquêtes.
Il y a des millions de documents, et donc, effectivement, les enquêtes sont toujours en cours, mais le seul, semble-t-il, pour l'instant, qui ait reçu de l'argent et qui ait eu des liens aussi avérés, c'est Jack Lang. C'est des noms qui sont cités, mais parfois même dans des articles
il y a eu
partagés sur les mails.
Je pense qu'il faut qu'il y ait un travail.
En tout cas, vous estimez que cette commission d'enquête doit pouvoir faire ce travail.
Mais bien sûr, pour que la vérité puisse être faite. Et puis je rappelle quand même que il y a en quelque sorte deux volets. D'abord, il y a l'affaire sordide, ignoble
de
trafic de mineurs, de crimes sexuels, de pédocriminalité, et il y a donc des victimes, et potentiellement des victimes en France. Et donc il est quand même légitime qu'on rende justice à ces éventuelles
Jack
victimes.
Jack Lang répondra tout à l'heure, mais il dit lui-même, j'ai souvent vu Jeffrey Epstein accompagné, dit-il, de jolies femmes. Il dit, elle n'avait pas l'air mineure, mais en effet, au minimum, il avait cette... Et ça, c'était dans Paris.
Donc il
ça,
doit y avoir...
lorsqu'il l'a vu à Paris.
Donc c'est quand même la moindre des choses de rendre justice à des personnes qui ont été victimes. Et puis il y a un deuxième volet qui est évidemment pas de même nature, mais qui pose question aussi, qui est des noms qui sont cités, peut-être des risques d'ingérence étrangère dans des processus électoraux. Et ça aussi, on doit pouvoir faire une enquête sur ce sujet. Et je veux dire deux choses, parce que parfois quand on dit ça, on me dit, oui, mais le complotisme. Si on veut éviter qu'il y ait du complotisme, il faut avoir des procédures qui permettent de faire la vérité. Et puis, deuxième chose, là où je mets en garde, je lis sur les réseaux sociaux des commentaires antisémites avec des formules issues d'une vision de la société du type le complot, vous voyez ce que je veux dire?
De quoi? Le complot judéo-messianique?
Voilà, des gens qui disent des choses comme ça, donc je leur dis attention, pas ça. On peut faire la vérité sur ce qui s'est passé, mais c'est pas en raison de la confession ou de l'origine d'une personne. Je pense que c'est important de le dire, madame Malherbe.
Je vois
des commentaires sur les réseaux sociaux.
Sur les fils que vous suivez.
Sur les fils que moi je suis. Enfin, si vous ignorez qu'il y a autour de ces révélations de documents de l'affaire Epstein des gens qui en profitent pour faire valoir une vision de la société antisémite, c'est qu'on n'a pas regardé la même chose. Donc je me permets de mettre en garde sur ce sujet. Ça me paraît important de le faire.
Tout à fait, Manuel Montpart. Les municipales, vous le disiez. Alors, quand on interroge les Français, leur priorité désormais. C'était jusqu'à présent le pouvoir d'achat. C'est désormais la sécurité. Sur ce point-là, qu'est-ce que vos candidats apportent comme réponse ?
Une rupture avec la doctrine qui est celle qui est à l'œuvre aujourd'hui dans l'essentiel des communes et qui ne fonctionne pas. Madame de Malherbe, est-ce que vous savez quelles sont les deux villes qui sont les plus vidéosurveillées en France ? Je vais vous répondre.
Je crois qu'il y a Nice.
C'est Nice la première. Et c'est Nîmes la deuxième. À Nice, il y a eu ces dernières années une augmentation de 70% des délits liés au trafic de drogue. C'est à peu près dans les mêmes proportions à Nîmes. Donc moi, je veux bien qu'on me fasse croire que ce sont ces recettes-là qui fonctionnent, mais je le pense pas du tout. Donc nous, ce que nous défendons, c'est évidemment qu'il faut prendre en compte cette question de la sécurité. Non, je dis pas de vidéosurveillance, ça veut dire on fait un moratoire et on met les moyens dans de la présence humaine, dans des effectifs de prévention, dans des effectifs qui garantissent la tranquillité publique. À chaque fois que vous mettez 4 caméras, vous pouvez mettre un effectif humain. Et ben moi, je préfère mettre un effectif humain. Et j'assume sur ce sujet d'être en rupture avec les positions qui sont défendues par un certain nombre de municipalités. Pas pour des raisons idéologiques, mais parce que ça ne fonctionne pas.
Vous avez vu que certains qui partageaient totalement votre point de vue lorsqu'ils ont été élus, je pense au maire de Bordeaux ou au maire de Lyon, ont aujourd'hui évolué sur cette question-là.
Et ben je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'ils font une erreur et une maladresse. Alors évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je ne vous dis pas qu'au lendemain, vous allez tout supprimer. Mais il faut faire monter en puissance un travail de prévention, un travail de tranquillité, un travail de présence sur le terrain, faire en sorte que dans nos quartiers, dans toutes nos villes, il y ait des services publics, il y ait des commerces, il y ait de la vie. C'est comme ça qu'on garantit la sécurité et la tranquillité publique. Et donc nous, on assume d'avoir une vision qui est une vision différente de celle des autres, mais je pense qu'elle serait plus efficace.
À partir de quelle nuance de couleur de peau, noir ou marron, ou de je ne sais quelle couleur, vous considérez que c'est OK d'être élu ?
Quelle que soit sa couleur de peau, c'est OK d'être élu. Je ne comprends pas pourquoi vous posez cette question.
Je pose cette question parce que j'ai lu les propos de différents candidats, La France Insoumise, qui disent qu'il faut élire un racisé parce qu'il faut désormais représenter le réel peuple de France qui doit reprendre le pouvoir. Je lis les propos de Daniel Obono qui dit à propos de la fête de l'humain que c'est une fête de blancs et que d'ailleurs, finalement, ça ressemble à des amphis de la France Insoumise et ça lui fait honte.
Écoutez, Apolline de Malherbe, il y a une question qui nous est posée. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que notre classe politique, elle est représentative de la population française dans toutes ses dimensions ? Ses dimensions sociales, ses dimensions de genre, ses dimensions d'origine. Est-ce qu'on considère ça ? Je pense pas. Quand vous savez que, de mémoire, il y a à peu près 80% des maires en France qui sont des hommes et seulement 20% qui sont des femmes, alors que 50% de la population sont des femmes. Attendez.
Mais de quelle couleur êtes-vous ?
Mais moi, je suis blanc, il n'y a pas de blanc de couleur de peau.
Mais vous êtes le patron de la France Insoumise. Mais avez-vous déjà songé à laisser votre place?
Mais attendez, Apolline de Malherbe, s'il vous plaît, je vais vous dire les choses.
Non, mais je vous pose la question. Lorsque vous avez lu ça,
vous devriez pas négliger un problème qui pose un problème.
Je ne néglige pas ce problème.
Un problème de rapport politique. Moi, la question qui est posée, c'est pas de remplacer des gens.
La couleur de peau qui justifie.
Mais c'est pas la couleur de peau qui justifie.
Effectivement, qui est aujourd'hui l'argument principal pour faire élire un maire ou un député ou quoi, je m'inquiéterais à votre place.
Ouais, ben moi je m'inquiéterais à votre place si vous avez compris ça de mon discours, parce que je crois
pas du vôtre, mais d'un certain nombre de vos membres.
Du nôtre, parce que je crois que depuis tout à l'heure on a parlé de fond, donc c'est d'abord quand on vote aux élections municipales, on vote d'abord pour un programme, pour des propositions. Ensuite, avoir comme souci et comme préoccupation, et oui, moi j'ai ce souci et cette préoccupation de faire en sorte que nos élus soient davantage représentatifs de la population française, je vois pas pourquoi ça devrait déclencher des cris d'orfraie.
Vous êtes élu de Marseille.
Oui, je suis élu de Marseille. Et moi, je suis très fier.
Vous êtes élu de Marseille. Oui. Vous êtes né, je crois, dans la Loire. Oui. Vous avez grandi dans la Drôme.
Oui.
Quelle est votre légitimité en termes de représentation? Puisque désormais, pour la représentation, il faut venir d'un terreau.
Peut-être que j'ai été élu la dernière fois en 2024 au premier tour de l'élection législative avec plus de 70% des voix.
Mais
peut-être que ça me donne une certaine légitimité, madame de Malherbe. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, très bien. Mais je suis pas en train de vous dire que du jour au lendemain, il va falloir remplacer tous les élus. C'est parce que je vous dis que il me semble que c'est légitime d'avoir une importance particulière qui est attachée, et nous c'est ce qu'on fait à la France Insoumise, je l'assume, à faire en sorte d'essayer de présenter des candidates et des candidats qui soient davantage représentatifs de la population française.
C'est philosophique, Manuel
Bompard.
Lorsque,
moi aussi c'est très philosophique.
Tout à fait. Lorsque Rima Hassan dit cette époque du porte-parole est révolue, c'est-à-dire désormais vous ne parlerez pas en notre nom, dit-elle. Les porte-paroles ne peuvent plus être des voix et des visages qui ne soient pas incarner. Encore une fois, je vous pose la question. Combien de temps allez-vous rester à la tête de la France Insoumise?
Mais c'est d'abord les militantes et les militants de la France Insoumise, c'est ça qui le décide. Non, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, Rima Hassan, elle a pas remis
c'est
en cause.
C'est pas eux qui le décident, parce qu'il se trouve qu'il y a pas de vote.
Mais si, il y a un vote. Mais
donc
bon,
en plus,
on va pas rentrer dans le détail si vous voulez. Mais Rima Hassan, elle a pas remis en cause, par exemple, ma présence. Elle a remis en cause et elle a remis en cause le fait que la classe politique aujourd'hui est pas suffisamment représentative de la population telle qu'elle est.
La question, c'est pouvez-vous parler
en sorte qu'il y ait une forme de peur morale sur ce sujet.
Non, ce qui m'intéresse,
y a pas de problème.
C'est pouvez-vous parler désormais en leur nom.
On
va se mettre d'accord.
Oui.
La représentation politique, c'est l'idée justement, précisément, qu'à un moment, on considère qu'un élu nous représente tous.
Oui.
Qu'on ait voté pour lui ou pas.
Vous avez tout à fait raison.
Qu'on partage ses idées ou pas. Mais désormais, la question, lorsque Sébastien Delogu dit désormais, il faut élire un racisé parce que le peuple réel de France doit reprendre le pouvoir. Lorsque Daniel Obono dit
vous les avez déjà dites une fois. Mais non, mais parce que le problème, c'est que vous prenez des propos, vous les sortez d'un contexte.
Non, pas du tout.
Et vous essayez de leur faire dire autre chose. Attendez, Apolline de Malherbe, ce que je dis, c'est que nos élus sont pas suffisamment représentatifs de la population et qu'ils doivent l'être davantage. Voilà. Après, moi, quand je suis élu, je porte la parole de l'ensemble des électrices et des électeurs de ma circonscription, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit d'ailleurs, y compris leur opinion politique.
Mais qu'est-ce qui est plus important?
Même celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi.
Ce qu'on est de naissance ou ce que l'on devient?
Mais vous pouvez comprendre, vous devez pouvoir comprendre, je pense, que quand on est français, qu'on
doit-on être réduit à notre, à notre origine, notre couleur de peau,
on n'est pas réduit à ça. On n'est pas réduit à ça. Mais quand la classe politique apparaît comme étant complètement décalée par rapport à la société dans laquelle on est,
à la liberté de penser contre ce que l'on est ou ce qu'on
mais
est,
évidemment,
ou ce qu'étaient nos parents.
Mais tout à fait, Pauline Nolin, mais comprenez aussi qu'il y a toute une partie de la population française aujourd'hui qui se sont pas représentées par la classe politique telle qu'elle est aujourd'hui. Et si vous voulez répondre à cette fracture politique et démocratique, vous devez aussi travailler à faire en sorte que la classe politique soit davantage représentative. Par exemple, regardez, il n'y a pas suffisamment d'ouvriers à l'Assemblée nationale, il n'y a pas suffisamment d'employés à l'Assemblée nationale, et pourtant je considère pas qu'un ouvrier va représenter que les ouvriers de sa circonscription. Donc évidemment
Monsieur
que Biro, c'est un sujet,
été,
une préoccupation
savez,
qui est décisive pour moi.
Sur une plateforme
moi.
Qui s'appelle La Librairie Africaine, j'ai écouté plusieurs de leurs podcasts.
Qui, pardon?
Et votre Monsieur Bilango, qui est l'un de vos députés, qui est lui-même candidat.
Oui.
Et La Librairie Africaine avait ensuite, la semaine d'après, invité une femme qui disait, elle était de couleur noire, et elle disait faire des bébés avec un blanc, ça fait des métis, et au fur et à mesure, ça élimine les noirs. Bon, ça lui posait problème.
Franchement, Madame Noël, vous n'avez pas à m'interroger sur, on est allé quelque part,
non,
et une semaine plus tard, il y a quelqu'un d'autre, parce que excusez-moi, mais je suis à votre micro. Avant, vous avez invité un certain nombre d'invités avec qui ont tenu des propos qui me dérangent beaucoup.
Quand on commence à calculer à partir de quelle couleur de peau on est représentatif.
Mais franchement, c'est bizarre que vous disiez ça.
Pourquoi justement? Je pense au contraire à la liberté.
Oui, mais je vais vous dire, par exemple, je pense que vous êtes. Je me permets. Hein,
allez-y.
Je pense que, par exemple, vous trouvez bien qu'il y ait eu la parité en politique et qu'il y ait maintenant davantage de femmes que d'hommes. Et vous auriez pu m'utiliser les mêmes arguments il y a quelques années dans ces débats-là. Quand
sachez
il y avait
que j'ai toujours
que
été justement pour la liberté.
Ben,
de chacun.
Oui, mais non, mais
en l'occurrence, mais
c'est pas une remise en cause de la liberté de chacun de considérer que parfois il y a des mécanismes de domination qui existent dans la société qui font que par exemple les femmes sont moins engagées ou se présentent moins à une élection que les personnes issues de l'immigration
tirez-vous les conséquences pour vous-même.
Mais moi, j'en tire les conséquences tous les jours. Vous allez voir pour nos candidates ou nos candidats aux élections municipales où on fait un travail et c'est un travail qui se fait de manière consciente et qui remet en cause la liberté de personne pour faire en sorte que nos candidates et nos candidats soient davantage représentatifs de la population.
Manuel Bompard, coordinateur.
Je trouve que c'est un bon débat, c'est un débat intéressant.
Et c'est un débat philosophique que je suis très heureuse d'avoir eu avec vous.
Et je pense qu'on a pu peut-être le préciser.
Vous êtes député
des Bouches-du-Rhône,
même si vous n'étiez pas né. Non, parce que là,
c'est la dernière ligne droite pour s'inscrire sur les listes électorales aujourd'hui. Alors inscrivez-vous. Voilà.
Bien sûr, RMC et BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Manuel Bompard était mon invité ce matin. Bruno Le Maire, vous vouliez réagir à cette interview?
Madame de Malherbe, j'ai écouté attentivement Manuel Bompard et au risque de vous surprendre, je suis totalement en accord avec lui. Hein. Bien sûr qu'il fallait faire tomber ce gouvernement, bien sûr il fallait le faire tomber, bien sûr ce budget est nul. Il faut remettre à l'économie des gens qui n'ont pas peur de la dépense publique comme je l'ai été. Voilà, Moi aussi, je suis un rebelle, un insoumis, je peux vous le dire. Hein? Macron me déteste parce que je dépense des sous. Mais cher Manuel Bompard, je lui dis, si vous avez une carte LFI pour moi, je prends.
Oh, enfin, c'est quand même un peu inattendu comme rapprochement, Bruno Le Maire.
Mais écoutez, on a le même combat avec M. Bompard. Hein, lui, c'est les paroles, moi, c'est les actes, après tout. Avec mes 3 000 milliards de dettes, hein, j'ai quand même failli couler la Macronie, hein, moi, tout seul. C'est son rêve, hein, Manuel Bompard. Alors, Manuel Bompard, je lui dis, vous et moi, nous ferions un duo formidable et complémentaire. Hein. Il est mathématicien. Moi, moi, il sait manier les chiffres. Hein. Moi, les chiffres, c'est pas mon truc. Bon, hein. Moi, je suis plus un littéraire, vous le savez.
C'est vrai.
D'ailleurs, je peux vous l'avouer parce que maintenant, je suis plus dans le game. Hein. Quand j'étais ministre, je peux le dire, je passais plus de temps à écrire mes bouquins qu'à bosser mes budgets.
Merci Bruno Le Maire. Hier, à son procès, Marine Le Pen a donc dû affronter les réquisitoires du procureur, des réquisitoires d'une sévérité exemplaire.
C'est formidable. Formidable, ça fait plus de 20 ans, Madame Malherbe, et que je suis en politique, que je réclame à corps et à cri et des peines exemplaires, plus de sévérité de la justice. Personne ne m'a jamais écouté. Et là, comme par hasard, c'est moi qui suis dans le box des accusés, et là, la justice découvre la sévérité. Merci, mesdames, messieurs les juges.
Bon, en tout cas, c'est fichu pour l'Élysée, là.
Oui, attendez, comment c'est foutu pour l'Élysée? Attendez, pour 2027, je suis d'accord avec vous. Attendez, il y a 2032.
Ah, oui, c'est vrai.
Alors, Jordan, il prend le job en 2007, mais maman reprend la boutique en 2032.
Ah, voilà. D'accord.
Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis trop vieille, c'est ça?
Non,
Non, mais écoutez, en 2032, j'aurai 63 ans, voilà. Voilà. Oui, mais 63 ans, mais en politique, excusez-moi, on est à peine pucelle à 63 ans. On n'a même pas encore l'âge pour rentrer au Sénat.
Merci, Madame Le Pen. À cause de problèmes de trésorerie, certains cadres des Républicains estiment qu'il sera très, très difficile de financer une campagne présidentielle en 2027. Nicolas Sarkozy, bonjour.
Bonjour, Mme Malherbe. Je comprends pas.
Non ?
Déjà, une campagne présidentielle, c'est pas de l'argent. Avant tout, c'est des idées. Et une fois que les gens y croient à tout qu'est-ce que vous leur, à tout qu'est-ce que vous leur avez raconté, après, ils adhésionnent à votre projet.
Ah oui.
Et là, il y a de l'argent, parce que quand ils adhésionnent, ils cotisationnent.
Ah oui.
Ça va de pair. Adhésement, cotisement.
Enfin, il faut quand même beaucoup d'argent pour financer les campagnes.
Mais écoutez, Mme Pujadas, n'essayez pas de m'amener sur le terrain. Je vois très bien le terrain glissant sur lequel vous voulez m'embourber. Moi, pour que les juges, pour que les juges entendent des aveux que j'ai pas faits. Moi, mon argent, je le gagne honnêtement, grâce aux idées que j'ai eues, que j'ai à vendre. Hein. Et si vous me croyez pas, ben, vous pouvez acheter mon bouquin aux éditions Fuyard. Hein. 200 pages que j'ai écrites en 10 jours enfermées entre 4 murs. Avec vue sur les barbelés, pour vous dire que c'était dur.
Ah ouais.
Et si les Républicains veulent gagner de l'argent, ben c'est tout simple, ils n'auraient qu'à écrire des livres en prison. En plus, dans ma famille politique, c'est pas les condamnés qui manquent. Hein. Il y a largement de quoi faire du pognon. Hein.
Merci, M. Sarkozy. On revient à présent sur les réquisitions donc au procès de Marine Le Pen avec Jean-Louis Borloo. Bonjour, Jean-Louis Borloo. Vous êtes ancien avocat, d'ailleurs. Hein.
Oui, non, c'est, mais oui, mais c'est quoi ce bordel de jugement, Mme Le Pen? Mais il y a des intelligentes au setup, mais on n'y comprend que dalle. T'ouvres une chaîne info, une radio, la vote, une note, on s'en fout. Si t'as pas un doctorat en droit, t'es condamné. Tu comprends rien, t'es condamné à regarder Gulli, voilà. Même moi, pourtant, je suis avocat. J'ai le diplôme. Bon, je sais pas où j'ai foutu, mais enfin, bon, bref. Hein, mais je suis paumé. Mais il y a des cours, on ne comprend rien au jugement. Il y a des cours d'appel, des cours de cassation, des cours européennes d'appel, de cassation, des droits de l'homme européens. Il y a de la prison ferme, du sursis ferme sous bracelet, des exécutions immédiates. Des exécutions différées, des exécutions. Il dort déjà, Texer. Des exécutions provisoirement immédiates à effet différé. Mais c'est imbitable. Pardon, on comprend rien. Mais pardon, mais les faut me simplifier ça, les enfants. Moi, depuis le temps, moi, quand j'étais avocat de Bernard Tapie, Marshall, il le sait, j'étais avocat de Bernard Tapie. Moi, c'était simple à l'époque. Tu payais 200 000 balles, t'allais 6 mois en cabane. C'était clair, voilà, fin du jugement. Aujourd'hui, c'est tout juste si on dit pas. Si le juge a Mercure en Verseau, ce sera applicable que pour les prévenus Capricorne du deuxième décan. Non, mais
c'est sûr.
Il y a juste un truc, Pauline de Malherbe. Il y a juste un truc où c'est clair. Si tu bosses chez CNews, là, t'es sûr que ta condamnation ne t'empêchera pas de continuer à bosser.
Merci, M. Borloo. Je me tourne à présent vers un autre avocat, notre collègue, grande gueule, Charles Consigny.
Écoutez, moi, je trouve, dans cette affaire, et je dis bien, je trouve, je pense, je ne suis pas sûr, je pourrais être très prudent, excusez-moi, pardon, je m'excuse, parce que je n'ai pas eu accès à toutes les pièces du dossier. Mais j'ai l'impression que Madame Le Pen, dans cette forme de défense, pardonnez-moi, excusez-moi, je m'excuse, je trouve que dans cette forme de défense, elle a fait preuve, et là, je ne parle pas de l'attitude des juges qui, pardon, c'est mon avis, pardonnez-moi de défendre. Non, je ne sais pas si, mais j'ai l'impression que Madame Le Pen, face au juge...
Je vais continuer rapidement. Mais... C'est quoi votre analyse?
Non mais attendez, Apolline, vous venez de me couper alors que j'arrivais à ma conclusion.
Ah oui.
Bon, donc par esprit de cohérence, je vais reprendre depuis le début.
Donc... Non, c'est bon, merci beaucoup. Charles Consigny et Nicolas Canteloup. Donc on retrouve dès demain 8h50 sur RMC. Et à tout moment en podcast, dans un instant, les GG, quel est le programme Alain?
Et on s'en fout pas. Eh bien, merci Nicolas, on se demandera si c'est game over pour Marine Le Pen, si ceux qui vapotent au boulot nous emmerdent et nous pourrissent la vie avec leur parfum à la noix. Et puis on recevra Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National, pour commenter Marine Le Pen. Elle a tout bardé là pour le RN.